Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi, surtout bonsoir, c'est Père Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 22 avril 2017 et nous voilà de nouveau réunis dans ma paroisse pour l'enregistrement du 33e volet de l'Anthropode. Oui, 33e volet comme l'âge du Christ. Oui, car à l'Anthropode, nous sommes là pour l'amour de Dieu et c'est entouré de mes camarades que nous allons essayer de dire non à la tentation diverse et variée, à commencer par le sang du Christ qui coule bien trop souvent dans nos gorges impures. Et oui, dire non à ce délicieux breuvage, et si doux, et si au goût si particulier. Alors, commençons par entamer un chant à la gloire de tout ce qui m'entoure. Un peu de distinction, les enfants. Il fait partie de la confrérie des bons Normands reconstitués. Dissoute après une quelconque affaire de soi-disant attouchement sur des teckels poilera d'une infinie douceur à faire pâlir une compagnie de légions étrangères perdues dans le désert après de longues semaines d'errance sans eau et sans femme. J'ai nommé frère Christophe.
Amen.
Chantons pour frère Christophe. Après moi,
je mets mon espoir dans le pinard sur de ma cirrhose.
Elle fait partie du cœur de notre église. Longtemps chassée des autres paroisses pour avoir brisé les vitraux de son si joli timbre de voix, c'est apeurée et blessée que nous l'avons recueillie. Après des semaines à ne vouloir ouvrir la bouche de peur de briser quelques tympans, elle a enfin repris conscience en elle et elle ne voit plus rien. Et elle a cassé quelques vitraux de ses vibrations vocales. Pour Sœur Didouille, chantons en chœur.
Je mets mon espoir dans le pinard, je suis sûr de ma cirrhose.
Il est ici en tant que père Labirute, en lien direct avec les jeunes sauvageons égarés à remettre dans le droit chemin. La plupart des enfants qui passent entre ses mains douces et rugueuses à la fois semblent ne plus vouloir prendre les chemins escarpés et boueux qui leur font tant envie. Attention les enfants, le père Labirute, la braguette, vos faits et gestes. Je vais essayer de faire du Arnaud. J'ai nommé père Lulu Labirute. Chantons en chœur pour Labirute Lulu.
Je mets mon espoir dans le pinard, je suis sûr de ma cirrhose.
Il y a ceux, malheureusement, que nous n'avons pu sauver du mal, ceux que la bête a rattrapés. Il fut enfant de cœur dans l'église de Monseigneur Barbarin des années 90 à 2000. Il en garde un souvenir tout ému et partagé quand on lui rappelle ses moments délicats. C'est certainement la raison qui l'ont poussé aujourd'hui à ne pas être des nôtres et à ouvrir un sex shop spécial gériatrie à Menton. J'ai nommé l'absent du jour Freddy. Chantons pour la repentance de Freddy.
Je mets mon espoir dans le pinard, je suis sûr de ma cirrhose.
Après des années de perdition, c'est dans les mains douces et rugueuses du père Labirute que ce pauvre petit agneau de 15 semaines est venu se blottir. Lorsqu'il est arrivé, le pauvre enfant n'avait presque plus rien mangé et sa croissance en fut terriblement perturbée. Mais après des semaines passées en notre compagnie, ce jeune agneau est devenu un très beau bouc du Cantal et a repris goût à la vie et au sang du Christ aussi. J'ai nommé les petits Arnaud. Chantons pour le petit Arnaud.
Et mon espoir dans le pinard, je suis sûr de ma cirrhose.
Elle a écumé la plupart des abbayes françaises et grandes institutions pour faire un parcours de la soif que les cul-de-jac et autres mutilés de la ville lui envient. Elle a commencé par Saint-Vendry et sa bière et passé par Fécamp pour sa bénédictine. En bonne normande, le cavan ne lui fait plus peur. Et c'est forcément aux portes de Beaune qu'elle a fait son initiation dans les grands domaines bourguignons. Oui, où le sang du Christ a un goût inégalé. J'ai nommé Sœur Sacavin Starlet. Chantons pour elle.
Mon espoir dans le pinard, je vis sûr de ma cirrhose.
Et enfin, gloire à toi, oui, toi qui dans la pénombre éclaire notre chemin, toi qui dans le ciel entr'ouvre les nuages pour nous montrer la voie divine, oui, toi qui dans ton amour pour son prochain nous ouvre son cœur, les portes de sa cave. Gloire à toi, ô grand prêtre qui supporte chaque jour de vivre avec un sac à vin, puis s'en fond une troubadour. Et pour ça, tu es béni entre les hommes. J'ai nommé Monseigneur Nico, mais avant de te redonner les clés du paradis, entamons une dernière fois tous ensemble, mes frères et sœurs, une cantique.
Je mets mon espoir dans le pinard, je suis sûr de ma cirrhose.
On croirait un bon tant pis.
Bravo, Marc.
Eh bien, en tout cas, tu ne cesses de nous surprendre.
Oui, jour en jour. Celle-ci,
Donc, comme vous vous en doutez, aujourd'hui, c'est un entrepôt sans invité. Donc,
on va bien faire les choses. Vas-y, continue.
Vas-y. Oui, donc aujourd'hui, un entrepôt, donc, comme je disais, sans invité. Donc, on va se la faire à la cool, tranquillement. Je suis en train de servir les verres. Tout va très bien. Et je te repasse la parole, mon Nico.
Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus, hein, tous.
Ben oui.
N'est-ce pas? Un épisode juste entre nous, n'est-ce pas? Hein, t'es à fond, toi. Bon.
Bah, il vient de grumer, tu l'entends pas grumer.
Ouais, mais il revient d'un petit séjour en Bourgogne. Alors là,
Je vous en parlerai tout à l'heure.
On sent que ça t'a inspiré, en tout cas, ce séjour.
C'est dans l'urgence qu'on pond les meilleurs œufs.
D'accord, okay. Il est en grande forme, lui, aujourd'hui.
Donc, on est juste entre nous, sans Freddy, hein, qui on pense, qui n'a pas pu se libérer pour cette fois. Comment ça va tous depuis ce temps-là?
Super.
Que ça fait ça va bien. Ça va bien.
Ça fait quand même un mois et demi qu'on s'est pas vu.
Déjà,
quasiment, ouais.
Un mois et demi
déjà. Dernier épisode avec Geoffrey, puis je crois que moi je vous ai pas revu depuis, un peu de choses près.
Donc, oui, c'est vrai.
Vous êtes tous en forme, ça va?
Bah, regarde notre déculaire.
Tout le monde a l'air bien motivé, bien au taquet, avec les sourires.
On est content. Super.
On est ravis d'être là.
Youpi.
Génial.
Youpi.
Ouais, allez, wap.
Donc, qui dit épisode sans invité dit plus de rubriques de la bande de l'entrepôt. Donc, quasiment tout le monde a préparé quelque chose. Et même Ludo, qui n'a pas de rubrique spécifique cette fois-ci, prend le relais de Freddy pour le quiz.
Pour le quiz.
Pour lequel il y aura aussi un cadeau à gagner pour nos auditeurs. Et puis on finira bien sûr par nos coups de cœur et nos coups de gueule, comme d'habitude, c'est-à-dire un déroulé assez simple, mais qu'on espère assez efficace. Avant de commencer, on va remercier les auditeurs qui nous soutiennent fidèlement et courageusement depuis plusieurs mois sur le Tipeee, que ce soit Romain, Tom et Virginie, qui n'attendent que vous pour les rejoindre.
Voilà, merci.
Un petit peu de name dropping, ça fait toujours plaisir. Et puis, sans plus tarder, je vais lancer l'émission avec mon voisin de gauche.
Déjà?
Oui. Ou t'as pas envie?
Si, moi je m'en fous.
Fais un peu plus d'enthousiasme.
S'il faut bien le faire, j'espère.
Si vraiment je suis obligé.
Et c'est ça. Il va te raconter un exemple que c'est du tout qui s'intéresse. C'est ça, je trouve ça important.
Christophe, de quoi vas-tu donc nous parler?
Devinez de quoi? D'un roman, évidemment.
Ah,
de
livre.
Mais je ne m'attendais pas que ça démarre si tôt, parce que peut-être que je vais encore briser l'ambiance.
Oh merde.
C'est étonnant, ça, dis donc.
Ça tombe bien, il n'y en avait pas. Quoi.
Non, celui-ci est pas trop glauque.
Ah, pas trop, j'aime le pas trop.
Pourquoi tu l'as lu alors?
Pas trop. Donc c'est un roman de Maria Ernestam. Vous ne connaissez pas, c'est une écrivaine suédoise.
Qu'est-ce que t'en sais, qu'on la connaît pas?
Vous la connaissez pas, j'en suis sûr.
D'accord.
Okay. Donc c'est une écrivaine suédoise qui est très célèbre dans son pays, mais évidemment en France, pas trop. Donc c'est un roman qui est sorti en France en 2013, mais qui a été écrit en 2007. Et donc ce roman, j'ai vraiment apprécié parce que c'est à la fois une réussite d'intelligence et de drôlerie. Teinté d'humour et donc de beaucoup d'émotions, ce roman mêle évidemment divers thèmes. La famille, les souvenirs, l'amour, la culpabilité. Et c'est une espèce de ça oscille entre le polar et le roman psychologique. Donc quelques lignes sur le pitch.
T'as dit qu'elle venait d'où, pardon, excuse-moi.
De Suède.
Ah oui, donc. Et le titre du livre, j'ai juste pas.
Le peigne de Cléopâtre.
D'accord.
De Maria Ernesta.
Très peu évocateur.
Peut-être que vous allez deviner pourquoi. Le titre. Donc le pitch. Donc nous suivons en fait trois amis d'enfance, Anna, Marie et Frédéric, masculin, qui décident de créer leur propre entreprise, pardon, sur la base d'un concept très simple. Écoute bien Nico, ça pourrait t'intéresser.
Je ne sais pas que tu commences.
Leur concept donc est très simple, résoudre les problèmes des gens. En effet, à eux trois...
Je m'en fous des gens, moi.
À eux trois, en fait, ils possèdent une espèce de palette de compétences qu'ils souhaitent évidemment mettre à disposition des autres. Et au départ, évidemment, l'entreprise se lance, tout se passe bien, jusqu'au jour où une demande très particulière leur tombe dessus. Une vieille femme vient leur demander d'éliminer son mari, tortionnaire, tyrannique et détestable.
Et en quoi ça concerne mon mari? Je suis pas au courant de quelque chose.
Et donc, la force de cette écrivaine, c'est qu'elle a, dans la description de qu'elle fait de son mari, de ce qu'il a fait, de ce qu'il lui a fait subir à cette femme et ce qu'il lui fait encore subir, fait participer le lecteur en nous persuadant que cette demande est parfaitement légitime. Cependant, évidemment, ça pose un problème de légalité et de morale. Peut-on tuer quelqu'un contre de l'argent tout en rendant service à ce quelqu'un?
Ça dépend combien.
et ben là, c'est une très grosse somme.
Ah bah alors oui.
Bon voilà, t'as trouvé ton credo.
Ok, ben voilà.
Donc dès la première phase, en fait, on entre dans un univers où chaque mot va avoir son importance. L'écriture de Maria Ernestam, pardon, nous harponne dès le début, et ces personnages posent de vraies questions sur notamment la fragilité des décisions et des engagements. Entre situations donc plutôt cocasses où elles nous fait, qui nous font sourire et émotions qui nous mettent parfois au bord des larmes, amitié touchante, problèmes quotidiens, suspense, tout y est. Et la psychologie des personnages est très très fouillée, et tout au long de l'histoire, ce que l'on prenait pour acquis finalement va vite voler en éclats. Leurs histoires respectives sont vraiment détaillées, mais pas d'un bloc. C'est ce qui fait tout l'intérêt du livre. L'auteur prend le temps de nous révéler petit bout par petit bout chaque épisode de chaque personnage. Et donc, c'est ce qui rend ce livre addictif, parce que finalement, on est obligé de continuer pour en savoir plus et surtout pour comprendre vraiment, parce que c'est un peu son style d'écriture, c'est que... Elle nous laisse à chaque fois sur une fin de chapitre qui nous oblige finalement à poursuivre.
Le puzzle s'est mis en place au fur et à mesure.
Alors on peut noter cependant quelques petits défauts. Hein. Parfois les événements traînent un petit peu en longueur parce qu'on sent que la narratrice, elle veut installer une certaine tension. Et donc pour ça, elle prend son temps. Et par moments, on a l'impression de ramer. Mais vraiment, c'est vraiment un petit défaut.
Succinct.
Le paradoxe de ce roman repose aussi sur le fait que ces trois amis d'enfance sont très proches, mais finalement ils ne se connaissent pas. Chacun cache une part d'ombre et garde ses secrets. Et même si ils s'interrogent tous les uns vis-à-vis des autres sur leur enfance, ils restent totalement secrets. Et nous, spectateurs, on est là à les observer et on s'aperçoit qu'on est en face de personnages torturés, blessés. Et l'intrigue, en fait, va mettre en perspective, en fait, va servir de révélateur pour ces trois héros qui sont empêtrés dans des graves traumatismes. Donc moi, j'ai vraiment passé un très bon moment avec ce livre. Et si on peut donner, en guise de conclusion, quelque chose qui pourrait susciter l'intérêt, c'est que ce livre repose, en fait, sur une idée très simple, c'est que les apparences sont souvent trompeuses.
Et tu trouves pas que c'est une idée un peu tirée par les cheveux pour un bouquin qui s'appelle Le Peigne de Cléopâtre?
Tu dis ça à Christophe?
Et ben justement.
Oui, parce que là, dans toute ta description, j'ai pas fait le lien avec.
Alors, le peigne, à quoi sert un peigne?
Après, faut peut-être pas trop en dire, je vais pas spoiler.
Non, en disant ça, on dit.
À débroussailler.
Non, ça sert à démêler un peigne.
Nous, on débroussaille, ça dépend la tignasse, toi, tu sais pas de quoi tu parles.
Voilà. Et donc, ce livre.
Voilà. Après, ça dépend, par exemple, pour un peigne cul, en fait, lui, bah, tu débroussailles pas, enfin, je suppose, enfin, comment ça se passe?
Non, tu démêles.
Tu démêles, en fait, c'est ça? D'accord.
Tu tries.
C'est mignon.
Et pourquoi Cléopâtre?
Parce qu'elle avait des longs cheveux, je crois. Puis c'était le bordel dans ses cheveux, non ?
Enfin, ça aurait pu être le peigne de Sissi. Parce qu'elle avait encore plus
longtemps. Ouais, mais si tu veux, c'est.
Ah, t'as pas complètement fait le deuil de Sissi. Loi n'a pas suffi.
Puis je trouve que ça sonne assez mal comme, comme titre de livre, Le peigne de Sissi. Ouais. Tu vois, on a l'impression d'être dans une bibliothèque rose pour adolescents.
C'est pas fou.
C'est vrai, c'est carrément vrai.
Alors que Le peigne de Sheila, ça aurait.
Et tu as l'habitude de nous présenter des bouquins qui sont des gros pavés.
Non,
là,
celui-ci,
c'est quelque chose qui, qui est
celui-ci
assez dense.
Celui-ci est pas très dense. Il fait 350 pages.
D'accord.
Oui, correct.
Ça se lit vraiment super facilement. C'est un peu un livre de plage, un livre pour l'été. C'est-à-dire très très agréable à lire et puis. Sans avoir forcément besoin de.
Elle est glauque, les couilles. Faut pas la regarder juste avant de se moucher.
Ben non, elle est pas glauque. Les apparences
bien,
sont trompeuses.
Est...
Ouais.
Voilà. Tu peux être une femme,
mais c'est un peu.
Tu peux être une femme, mais en fait, t'es une lapine.
Voilà, c'est ça que ça veut te dire. Le
non, c'est pas ça du tout.
Non, dites pas trop, parce que si je.
Non, mais oui, ça peut être intéressant.
Donc, juste pour préciser que ce livre, dont je remercie Michael, parce que c'est le.
Michael du rêve de l'escalier.
Monsieur Rêve du rêve de l'escalier qui me l'a conseillé. Et vraiment, moi, je serais jamais allé chercher. Cet auteur et une histoire pareille, quoi. Mais vraiment, c'est extrêmement agréable à lire et on s'attache vraiment aux personnages parce qu'ils sont. Enfin, ils traînent des grosses casseroles, quoi.
C'est un peu ce que la force des romans nordiques en général. Quand tu parlais de lenteur aussi dans le récit, souvent c'est un peu aussi le pendant, mais ils aiment bien poser des atmosphères avec des personnages qui ne sont pas manichéen ou simple qu'au premier abord. Enfin, c'est.
Et tu le prêtes au premier qui dit Prums ou
oui, Prums. Oui, je l'ai ramené. Celui qui veut le prendre, je lui laisse.
Voilà. Ce sera celle qui voulait le prendre.
Voilà.
Bah, écoute, merci Christophe. Donc on répète Le peigne de Cléopâtre de. Alors comment s'appelle la.
Maria Ernestam.
Ernestam. Très bien.
Il faut juste souligner que c'est son deuxième roman. Quoi. Aujourd'hui, elle est extrêmement connue en Suède et elle a à peu près une dizaine de romans à son actif.
D'accord.
C'est joli.
Et la couverture, ouais, est particulièrement réussie, je trouve.
Tu la regardes longtemps, en fait.
Ouais, c'est ça, en fait.
J'aime beaucoup. J'aime bien les couleurs.
Et surtout
aussi.
Après avoir lu le livre, parce que je pense que.
Oui, d'accord.
En fait, Starlet, elle l'a pris juste pour regarder.
Elle l'accrochait
aussi. Elle l'a regardée.
Je vais la regarder pendant longtemps.
Avant de s'endormir. Non, non. Merci, Christophe.
T'es beau quand tu souris. Comme
ça. Nous avons Miss Lulu en mode présentateur de...
Lulu Pujol.
Après Lulu, la birute. Non, c'est ça.
La birute.
Lulu, la birute. Il est très bon, ce petit vin.
On ne l'entend plus, mais par contre, il est écluse. Hein.
Pour le coup.
Ça a l'air pas mal, en fait. Hein.
Ouais.
Moi, la pochette,
sur le coup aussi
la pochette, c'est la couverture.
La couverture, les couleurs m'ont vraiment énormément plu.
John prit Cindy sur la Ferrari rouge.
Peut-être sa grosse poitrine.
Non, puis ça se lit vite, c'est-à-dire c'est pas un gros paveton de 1000 pages ou 500 pages. C'est vraiment.
C'est intriguant. Ouais.
C'est le roman de l'été pour moi.
Ok. Eh ben, écoute. On le conseille donc à tout le monde. Si jamais vous l'avez lu, si vous souhaitez le lire, bah, n'hésitez pas à faire vos retours à Christophe, hein, parce que je pense que tu aimerais bien avoir des retours sur ce que tu as présenté. Je sais pas, tu as des gens qui.
Oui, j'ai oublié son prénom.
Bah, bravo,
Virginie. Pas, ça c'est cool. Hein.
Virginie Moren. Non,
c'est la femme de Monsieur Donny.
Ah, Isabelle.
Isabelle Donny, qui m'a fait un très bon retour sur Donna Tartt. Et Mathieu lui-même m'a fait un retour oral.
De Tartt.
Ils sont dégueulés ou
non, non, ils ont bien aimé le citron. Ils ont bien aimé le citron. Tartt au citron.
Et t'as Frangine aussi qui a lu
moi,
le liseur.
Tout... Quand quelqu'un veut me faire un retour, je me fie toujours.
Pour le liseur.
Quelqu'un veut me faire un retour oral, je dis « Oh là là, attends, on se connaît pas
!» Comment Et le liseur, justement, oui, il y a eu le film est passé récemment et j'ai pas pu le voir, mais j'aurais bien aimé, même s'il y avait de mauvaises critiques.
Ouais, bon, permettez de te faire ton avis, effectivement. Tiens, Starlet, on va faire dans
sans
le sens
transition,
de...
hein.
Bah, sans transition, aucune.
On va faire dans le sens qu'il n'y a pas de sens, en fait.
On va faire dans le sens de ceux qui ont rempli le conducteur, donc voilà, dans ce sens-là.
Ça pourrait bien que je passe en dernier, moi.
Donc oui, Starlet, tu as testé pour nous quelque chose ce mois-ci, et après un sympathique jingle, te laisser la parole.
Quand je me regarde dans quelque chose, je le fais à...
Thank you.
D'ailleurs, on ne le dit jamais assez, mais les jingles, ils sont simplement à tomber.
On ne peut pas échanger notre jingle, j'aime bien le tien.
Mais ça, c'est enregistré ou on parle en off là? Parce que moi, je voulais faire vraiment un compliment en vrai pour les compliments de pour le.
Ah merci, Marius, c'est gentil.
C'est gentil.
Pas que ce soit
il est
coupé.
Bon, ce garçon, t'as vu un peu.
Non, mais c'est fort.
C'est
super bon, quoi.
Oui, mais c'est vrai.
Tu veux lui faire un retour au vol?
C'est n'importe quoi.
Starlette.
Oui.
De quoi nous parles-tu donc?
Alors, depuis quelque temps, j'expérimente une nouvelle façon de consommer. Donc, on essaye de plus en plus de consommer bio, ou tout au moins raisonné, commerce équitable, etc., produire moins de déchets. J'ai récemment troqué ma machine à capsule contre une cafetière filtre, j'ai repris le réflexe du bac à compost, consommer local et sain, je vais acheter ma viande directement chez l'éleveur, etc. Donc, je pousse la démarche un petit peu plus oui. loin que ce que je faisais déjà avant.
Et, pardon.
Vas-y. Non, vas-y.
Les protège-slips, est-ce que.
Elle achète des lavables, en fait.
Mais plus de sous-vêtements,
c'est
rien.
Ça.
Voilà. Moi, tu sais, il y a eu.
Plus de déodorant.
Il y a eu la mode de ça. De...
Là, les couches lavables, ça existe.
Ouais. Comment ça s'appelle, ce phénomène?
Je sais qu'il y a un nom pour ça.
Il y a des célébrités.
La cradosserie, je crois, non?
Non. C'est des célébrités qui se présentaient comme ça, sans protection, et puis qui laissaient couler.
C'est cool, ça.
Oui.
Tout ça. Et j'ai pas compris la démarche, donc j'en suis pas arrivée à ce point-là.
Pardon, excuse-moi.
Par contre, dernièrement, j'ai franchi un nouveau cap. Celui de fabriquer moi-même mes produits d'entretien.
Ah ouais, carrément.
Ah ouais, carrément. Ouais.
Donc, en fait, à la base, il suffit de se constituer une base de produits et de trouver les bonnes recettes parce que finalement, c'est toujours les mêmes choses qu'il faut qu'on utilise. Donc, une petite liste non exhaustive, du vinaigre blanc, du savon noir liquide, du savon de Marseille, du bicarbonate de soude, des cristaux de soude. Il y a peut-être des noms qui ne vous parlent pas trop, mais ça se trouve vraiment très facilement partout, même au supermarché.
Dans les pépinières aussi, maintenant. Ils y mettent les
oui, mais t'as même pas besoin d'aller jusque là-bas. En fait, vraiment, au supermarché, tu peux trouver. Et puis, sur Internet. Et puis, des huiles essentielles pour compléter les recettes.
Bonne odeur, quoi. Ouais.
Pas que ça. Parce que les huiles essentielles ont quand même des vertus propres à chacune et qui sont très intéressantes selon le produit qu'on fabrique. Ouais, d'accord. Donc, une fois qu'on s'est constitué cette petite base de produits, on peut trouver facilement des recettes sur Internet. Pour ma part, j'ai investi dans
plein de bouquins.
Ouais, bah oui, je me suis dit, je me lance, donc tant qu'à faire, je me documente. Le premier que j'ai acheté s'appelle Je fabrique mes produits ménagers. Je l'ai eu en ligne sur une plateforme d'achat très connue. Et je me suis acheté aussi la Bible des huiles essentielles parce que c'est très complet en fait. Pour chaque mâle, son huile essentielle. Vraiment,
quand
c'est quelque.
Pour chaque mâle, son huile essentielle.
Moi, préciser, par exemple, c'est plutôt Niobi.
Peux-tu préciser ta pensée, s'il te plaît?
Toi, ça sera plutôt essence de citron.
Voilà.
Bon, il se trouve que finalement, j'ai investi là-dedans. Je m'y réfère de temps en temps, mais sur Internet, on trouve plein de trucs. C'est parce que je voulais avoir un petit truc que je commence
base,
à bouquiner.
Une petite Bible, un petit truc que tu peux griffonner.
Moi, je mets des post-it, j'aime bien. Je mets des coups de fluo. Ça m'aide à comprendre un peu la démarche. Mais sur Internet, il y a plein de choses. Et les recettes que j'ai trouvées, c'est vraiment pas contraignant, en fait. Ça te prend 5 minutes. C'est pas compliqué. Ça revient finalement.
Tu vas pas laver ton linge à la rivière.
Je retourne pas au lavoir
faire ça avec un truc.
Je me fais ma lessive. Elle marche très bien. Elle est très efficace. Mmh. Le linge est propre. Il sent bon. Et ça me prend 5 minutes une fois toutes les deux semaines. Je me fais 3 litres d'un coup.
Effectivement, c'est du mélange en fait, tu mélanges. Et...
En fait, alors je me suis dit.
Mais elle a l'habitude, elle se fait 3 litres d'un coup.
Cul sec.
Donc, bien entendu, je ne vais pas vous faire toutes mes recettes, mais là, je me suis dit que je vais donner une recette. Et j'aimerais bien, si on a des auditeurs qui ont ce genre de démarche-là aussi, s'ils pouvaient me partager leurs recettes, parce qu'il y a des produits que j'arrive pas à faire.
Les petites recettes de grand-mère à se partager, quoi. Entre
alors justement, j'ai une question. Je me suis acheté hier encore une petite revue sur le sujet, parce que ça m'intéresse. Ça s'appelle les vrais secrets de grand-mère. On appelle toujours ça des secrets de grand-mère. Ma question est, je me suis demandé, est-ce que je commence à m'y intéresser parce que je vieillis ou est-ce que c'est parce que j'ai une prise de conscience? Vos avis éclairés sur le sujet. Est-ce que vous-même, vous vous sensibilisez à ça ou pas dans votre vie de tous les jours?
J'utilise le bicarbonate très souvent. Ouais. Je ne prends pas de produits d'entretien pour mes sols, c'est qu'à la vapeur. On dit secret de grand-mère parce que je pense qu'on est dans une vraie société de consommation très aseptisée où il faut absolument que ça sente bon, on va te vendre. Et nos grand-mères n'avaient pas tout ça. Donc, ouais. Elles avaient pourtant des intérieurs très propres.
En fait. C'est plus de la débrouille.
Et moi, je sais que mes vitres, j'ai testé les vitres au papier journal.
Non, moi, j'ai une recette, mais laisse tomber.
J'ai fabriqué des
préservatifs
en vessie de porc maintenant. plutôt qu'en plastique parce que justement je voilà j'ai eu
ceci dit
au goût c'est meilleur
en même temps c'est pas
des produits essentiels aussi trop
c'est pas par contre c'est pas halal quoi
non mais il y avait forcément
et c'est pas du plastique
hein. Et tu sais ce que tu dis là c'est pas con parce que les Amérindiens oui. Pour justement qu'il y ait moins de naissances, ils se mettaient de la laine de bison sous les testicules pour chauffer et pour éviter que
En plus t'as raison c'est vrai.
Donc il y a forcément des trucs qui se faisaient enfin qui se faisaient avant qu'on oublie parce qu'on est
j'en viendrai peut-être pas jusqu'à là.
Non mais c'est parce que je rebondis sur ce qu'a dit Ludo par rapport à sa vessie de porc.
Mais t'as fait comment là?
Parce que effectivement, moi je trouve que on a tendance à être dans une société de consommation où tout doit aller vite, on te vante les produits d'un truc, mais ceci dit, même les produits qu'on utilise ménagers, ils mettent plus de savon noir parce qu'on, à contrario, il y a cette volonté aussi de montrer qu'on peut utiliser moins de produits. Enfin, moi, je vois les tutos sur Internet, ce que tu dis là, moi, ça me parle, je trouve ça super. J'ai pas encore fait, mais c'est vrai que j'aurais tendance à croire qu'effectivement, nos grands-mères ou même nos parents, n'avaient pas tous ces produits.
Le vinaigre blanc, des choses comme
mais
ça.
Mais le vinaigre blanc, oui, voilà. T'as pas besoin d'anticale pour pouvoir décalcériser quoi que ce soit.
J'ai testé plein de choses, plein de recettes pour des utilisations différentes. En gros, j'ai 4 succès. J'ai la lessive, vraiment.
Ça, c'est top.
Rien à dire. Ça sent très bon, ça lave très bien. J'ai le produit à vitre.
Ouais. Ah oui, carrément. C'est pas
du mais c'est un truc de.
Moi, je le veux bien parce que
c'est mieux que.
Justement, zéro
trace. On s'est fait la remarque, il n'y a plus de trace du tout.
Tout con. Moitié eau, moitié vinaigre blanc, quelques gouttes d'huile essentielle de citron pour que ça sente bon. Ouais. Et puis, tu fais ça à la
microfibre, en fait.
Tout simplement, zéro trace. Et c'est. Ah, c'est impeccable.
Et du coup, l'économie là-dessus, enfin, je veux dire, parce qu'après, c'est ça.
Alors, j'ai calculé pour certains produits, ça te coûte pas plus cher.
D'accord. En tout cas, ouais. D'accord.
Si, parce que là, pour le produit
produit
à vitre, ça te coûte que dalle. Le vinaigre blanc, c'est soit c'est 50 centimes le litre.
C'est plus une question de principe.
Ouais, l'idée, c'est pas de faire des économies.
D'accord. Mais ça fait pas forcément d'économie, mais en même temps tu produis moins de déchets. Du coup, parce que chaque fois que tu rachètes un produit, tu rachètes l'emballage.
La démarche,
elle est haute.
C'est l'ensemble.
Voilà. Exactement. Oui, je cherche pas à faire des économies. D'accord. Je cherche, mais je pense que t'en.
À mieux consommer.
À consommer mieux, plus propre, plus raisonné. Donc,
éco-citoyen.
Mais oui. Pour les sols, je me prends plus la tronche.
Je lave plus.
Non, mais le savon noir liquide, tu colles 2 cuillères à soupe dans ton seau d'eau bouillante et puis roule ma poule, quoi. Et ça lave super bien.
Moi, je suis à la vapeur, comme ça, il n'y a même
Ou vapeur, mais comme j'ai pas besoin d'électricité, comme ça, bon.
Ah oui. Bien, prends ça dans ta gueule. C'était bien répondu. Alors, celle-là, t'es belle.
Oui, mais j'ai des problèmes de dos. Moi, ça m'arrange d'avoir un...
Mais moi, j'ai un balai, hein, je sais pas.
Bah oui, mais ton balai, tu mets ça sur une toile. Une toile, tu les sors.
Ça fait longtemps que je suis passée au mop Vélédor, madame. De la toile qu'on essore, hein. Bon. Et donc, alors, je vais vous donner ma recette de lessive. Parce que.
Qu'on pourra retrouver sur le site, j'espère.
Mais oui, oui. Donc, alors, pour 1,5 litre de lessive, c'est pour vous montrer à quel point, c'est pas pour vous dire c'est long, c'est chiant, c'est pour vous dire à quel point c'est simple.
J'imagine que tu mets de l'huile essentielle, tu choisis le parfum que tu veux, là, ou pas.
Oui,
ça dépend
de voilà, comme il y en a qui sont spécifiques à certaines choses, il y en a, j'en mélange deux, en fait, je vais vous expliquer. Donc, déjà, tu fais bouillir de l'eau, 1,4 litre pour 1,5 litre de lessive. Tu la fais bouillir. Dans un saladier grand, tu mets 60 g de savon de Marseille râpé. Le savon de Marseille, petite parenthèse, qui est très importante, ne prenez pas le blanc parce qu'il est fait à base d'huile de palme. Ah, il faut prendre le vert à base d'huile d'olive.
Oui. Bien, on en apprend tous les jours, tu vois.
Voilà, le savon vert à l'huile d'olive et il faut prendre 70%. D'accord. Comme ça, c'est le pur savon de Marseille. Ça coûte que dalle. Alors, au supermarché, si vous cherchez du savon de Marseille, c'est au rayon lessive, tout simplement en bar en général parce qu'ils n'en vendent pas beaucoup. Ensuite, vous rajoutez une cuillère à soupe de cristaux de soude dans votre mixture. Vous mettez votre eau bouillante, vous mélangez. C'est un peu long à fondre, mais vous pouvez aussi l'oublier puis venir touiller au bout d'un moment. C'est dissous.
Ça marche.
Voilà. Et à la fin, vous ajoutez vos gouttes d'huile essentielle. Donc moi, je fais un mélange de lavande fine et d'arbre à thé pour toutes les deux. Donc la lavande fine, clairement, c'est l'huile essentielle. S'il ne vous en faut qu'une, il faut celle-là. Mmh. Elle fait tout. Elle est antiseptique. Ah ouais. C'est celle que je mets depuis 2 ans.
Sur les cheveux des
tous
enfants.
Les matins, j'ai un petit pchit. Et les enfants partent avec ça à l'école, c'est un répulsif à poux.
Et tous les copains ont des poux, mais pas les nôtres.
Voilà.
Mais les enfants, ils sentent bon le chien de lavande.
En plus, par contre, ça sent bon.
Par contre, ça fouette en
plus. On s'y connaît.
Par contre, ils n'ont bon. Pas de poux, mais ils n'ont pas de copains.
Donc en fait, c'est les deux seuls enfants qui sont pris pour des pestiférés. C'est vachement bien.
Non, par contre, le prof qui adorait courir dans les champs de lavande enfant, il régale.
Et donc, je mets donc la lavande, vraiment, c'est l'huile essentielle à avoir absolument. Et je mets arbre à thé, qui est, elle, cette huile essentielle-là, qui est aussi appelée tea tree.
Arbre à thé, tea tree, j'ai compris.
lui, elle, sa véritable essence, c'est tout ce qui est assainissement. Voilà, c'est... Donc ça, je mets ça dans ma lessive. Donc hop, tu la laisses reposer un petit peu. Quand c'est tiédi, tu mets ça dans ton petit bidon.
Est-ce que ça fige un peu? Enfin, est-ce que ça change alors, l'aspect de...
Le truc, c'est
bidon,
que...
Tu ne bois pas. Hein.
Tu le mets dans ton petit bidon, c'est pas un peu risqué dans ce sens?
Mets-le dans ton petit bidon.
Alors, le liquide que tu vas fabriquer n'est pas... stabilisé.
Oui.
Ce qui fait que avant chaque lessive, il va falloir que tu remues ton bidon.
Ah oui, c'est ça. Parce que c'est le savon qui se précipite dans le fond.
Sans problème, c'est de l'eau et du savon, donc voilà, sans problème. Et j'ai remplacé l'adoucissant par
du vinaigre blanc.
D'accord.
Ça, voilà. Et donc je mets mon vinaigre blanc dans mon bac à adoucissant et je rajoute quelques petites huiles, quelques petites gouttes d'huile essentielle. Là, c'est selon mon humeur.
Et là, de toute façon,
Allez-y.
Et là, tu dis merde aux grandes marques.
Mais carrément, mais c'est exactement ce qu'a dit là tout de suite.
Voilà. Vas-y, dis-leur merde. Et là, je dis merde aux grandes marques.
Aux grandes marques. Non, mais c'est vrai.
Et elle tue des milliers d'emplois. Non, ça, c'est destructeur pour l'économie.
Là, ça fait du bien ta machine à laver parce que.
Mais en plus, le vinaigre, ça évite. Et mon linge est pas rêche alors qu'on a une eau très calcaire, etc. Et quand je fais du blanc, j'ajoute à ma lessive une petite cuillère
de bicarbonate.
Percarbonate de soude qui blanchit.
C'est un collègue à toi, ça.
Percarbonate de soude. C'est un grand collègue. Nous sommes partis en séminaire dernièrement avec les enfants.
Et pour du linge.
Ça, c'est bon, la lavande.
Et quand on fait bouillir du linge un peu sale, des torchons, des machins, tout ça, on peut rajouter une cuillère à soupe de cristaux de soude. On adapte sa petite popote au linge qu'on met dedans. C'est vraiment pas contraignant. Je vous dis, le linge est vraiment très propre. Non, mais... J'avais commencé à faire ma lessive quand j'étais enceinte de ma première fille. Et j'ai arrêté quand j'ai récupéré les body souillés.
Oui, parce que là, c'était.
Là, c'était quand même pas assez puissant. D'accord. Mais pour du linge de tous les jours, c'est parfait.
D'accord.
Voilà.
Donc, petite question très sérieuse. On parle beaucoup en ce moment des produits avec les parabènes, notamment gel douche et shampoing.
Oui. Ouais.
Bon, shampoing, ça me concerne pas trop. mais par exemple, est-ce qu'il y a des recettes pour des gels douches pour se fabriquer soi-même son gel douche avec des huiles essentielles?
Oui, du sable.
Mais un truc qui t'arrache pas la gueule non plus. Parce
c'est ça en fait.
Oui. Bah, je te prêterai. Je me suis acheté justement un petit magazine hier. Le fameux Les vrais secrets de grand-mère. Il y a plein de recettes dedans. Tu peux tout faire en fait.
Ouais.
Tu peux vraiment tout faire. Et je te le filerai, oui.
Non, mais des gels douches qui sentent bon, quoi.
Tu peux, mais oui, mais tu mets tes huiles, tu mets les huiles essentielles que tu veux.
C'est ça qui parfume.
D'accord.
Il y en a pour...
les huiles essentielles, ça coûte un peu
pour éviter la chute des cheveux. Mais toi, c'est trop tard.
C'est trop tard.
Dis toujours.
Il faudrait...
Je sais plus, je l'ai vu ce matin. Je crois que c'est Miaouli, justement.
Ah, c'est une recette de grand-mère pour... Je vais m'en tartiner un petit peu.
Il faudrait une recette de grand-mère pour retrouver la pousse des cheveux.
Non, là, je crois vraiment qu'il faut que tu investisses dans un...
Moi, je sais que ma mère, par exemple, pour ses ongles, quand elle était jeune, elle prenait du citron, elle se mettait les ongles dans le citron. Et pour ses cheveux... Pour ses cheveux, elle mettait un jaune d'œuf et elle les rinçait au vinaigre pour avoir de la brillance. Et elle a toujours été.
Moi, ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure,
propre,
c'est qu'en fait, le vinaigre blanc, on l'utilise énormément pour beaucoup de choses.
Ça désodorise, ça détartre, ça te blanchit.
Nous, en fait, on
ça désinfecte complètement. J'ai un pchit.
On avait été visiter Greenpeace, le bateau de Greenpeace qui était venu il y a 3 ou 4 ans. À Rouen, et en fait l'équipage disait qu'il nettoyait entièrement le bateau au vinaigre blanc parce qu'il n'y avait aucune pollution et c'était
vraiment ça coûte que dalle, c'est du 40 centimes le litre quoi, c'est vraiment
c'est issu de quoi le vinaigre blanc d'ailleurs, c'est con ma question,
c'est pas de l'alcool,
y a pas
c'est
écrit, de pinard
ça,
dedans
ça, ça s'appelle aussi c'est... vinaigre d'alcool mais c'est il y a pas d'alcool dedans en fait.
Mais c'est ce qui pollue le moins.
D'accord. Et oui, et c'est, voilà, c'est magique. Donc, moi, j'ai quand même des petites... Enfin, donc, je vous ai dit mes produits qui marchaient bien. J'ai essayé le produit à lave-vaisselle. Si vous avez des recettes, moi, je n'ai pas de succès à ce niveau. Ça lave, mais j'ai des traces, donc ça ne marche pas. Et puis, le liquide...
On trouve des pâtes.
C'est moche, ça.
Non, ouais. Bah, du coup, j'ai...
Non,
j'ai
c'est propre, mais ça fait quand même...
Ça va pas. Donc si vous avez des recettes de produits vaisselle, je veux bien. J'en ai vu une nouvelle, là, je vais la tester. Mais
là, et il puis... faut deux produits de toute façon pour la vaisselle. Le lavant et puis le rinçant.
Non, le rinçant, tu mets du vinaigre blanc.
Ah bah oui. Ah ouais. Con, pas
ça
écouté.
Te donne de la brillance et ça t'enlève le petit voile blanc. Et puis okay. Le liquide vaisselle, j'y arrive pas non plus.
Donc, moi, j'utilise 2/3 de Dash, 3/3 de Soupline.
Et de la Javel.
Et de la Javel. C'est un truc de grand-mère.
Non, non, tu mets du Calgon.
Les lavages plus durs ont un.
Les mots, ils sont pas sortis. Les lettres sont pas sorties dans le bon ordre.
C'est chiant quand ça arrive.
Consonne,
c'est le problème. Tout veut sortir en même
c'est
temps.
C'est le problème de Marius qu'on s'est pas écrit, quoi.
Donc voilà, c'était la rubrique Mère Denis.
Mais c'était très, très intéressant. Très
intéressant. Vraiment intéressant. Ouais,
super. Bah, franchement, après le bouquin de Christophe.
Tu les trouves où tes huiles essentielles en pharmacie ou dans des biocoop ou
Il y en a même au supermarché. Elles sont bio aussi, celles que j'ai dans mon supermarché. Mais en ligne.
Par contre, je relance un truc en vitesse qui me revient à l'esprit là, sur les huiles essentielles. Là. J'ai entendu dernièrement que c'était, par contre, celles qu'on diffuse avec leur fameux diffuseur nature et découverte machin, que c'est vraiment pas bon du tout.
Ah oui, mais
pareil que ce serait vraiment, mais. Il faut et vraiment néfaste hein.
Tous les trucs diffuseurs dégueulasses machin, il faut éviter.
Non mais là c'est pas diffuseur dégueulasse.
Non mais je rebondis simplement sur les huiles essentielles.
Mais non mais justement, je comprends pas.
Eh bien, tu sais ce qu'on trouve chez Nature et Découverte, les diffuseurs d'huiles essentielles.
Ouais, ça fait de la vapeur avec des huiles essentielles.
Ça chauffe, c'est censé avoir des propriétés. Oui.
Eh bien, je t'assure que c'est pas bon du tout, apparemment. Il y a pas très longtemps, très.
Est-ce que le fait de les faire chauffer, c'est si bon?
Mais ça chauffe pas, justement.
C'est un nébulisateur.
Ça fait de la vapeur, donc ça chauffe forcément.
C'est un nébulisateur.
Passage de l'état liquide à l'état solide, à l'état gazeux.
Mais c'est pas par la chaleur. Mais
après, il faudrait que je me renseigne parce que du coup, je lance un truc où je suis complètement. J'ai écouté ça. Je sais pas, c'était discutons dans un rad déjà.
J'ai vu ça sur les petits complots pour Brillant Société. Alors,
je suis étonné.
Je me suis dit que j'allais sortir un truc qui allait intéresser tout le monde et en fait j'ai aucune source.
J'ai bien sûr les trucs que tu branches au prisme machin pour diffuser une odeur, c'est très mauvais.
Ça, c'est pas bon du
mais
tout.
Je voudrais bien avoir tes sources s'il te plaît parce que je suis très
étonné.
Essayer.
Mais lancer un autre truc.
Ce sera le fil rouge de l'émission.
Tu te souviens quand on prenait des cours de chant?
Oui.
Quand on avait des maux de gorge, en fait, notre prof de chant était très huiles essentielles. Donc, elle avait ses petits cachets blancs qui n'avaient pas de goût, sur lesquels elle mettait quelques gouttes d'origan ou de thym.
Donc voilà, on vous mettra la recette donc de la petite lessive en ligne. Et puis, n'hésitez pas à me partager vos recettes à vous parce que ça m'intéresse.
J'ai l'article.
Alors vas-y, écoutez.
Si je lis, ça va être une misère. Tu veux pas lire, Lulu?
Depuis le début, il nous fait croire qu'il sait lire.
C'est un truc qu'il a trouvé sur.
Après, c'est même quand je lis, en fait, tout sort en même temps.
C'est Doctissimo ou
non, c'est sur onvousment.org.
C'est le Gorafi.
C'est le Gorafi, ouais. C'est ce que j'allais dire, ouais.
C'est Norbeo.
Non, écoutez ça.
C'est la nouvelle année, et avec elle, ça ribambelle de bonnes résolutions. Vous en voulez une facile à retenir? En 2016, je vous suggère de ne plus utiliser d'huiles essentielles.
Non.
Allez, toc.
Trop dangereuse, pensez-vous?
T'es vraiment un bâtard.
Et si je vous disais qu'elles causent bien plus de dégâts qu'elles ne font de bien? Et si, à votre insu, les huiles essentielles étaient en train de vous tuer? Voici 5 bonnes raisons, j'ai perdu la ligne, de tenir cette résolution coûte que coûte afin de démarrer cette nouvelle année en beauté. Pourquoi c'est dangereux? Pourquoi c'est dangereux? Première raison, les huiles essentielles sont trop compliquées à utiliser.
C'est vrai? C'est écrit?
Ah bah oui. Revenons à nos dangereux suspects. Les huiles essentielles sont bien trop compliquées à utiliser. 2, les huiles essentielles sont beaucoup trop puissantes.
Il n'est pas allé au bout et en fait c'est écrit tout cela est faux.
Les huiles essentielles sont naturelles et indéfiniment dangereuses. Aucune valeur médicinale. Font du mal à vos animaux de compagnie. Bon bref,
c'est pas vrai.
Et à la fin ils disent pas c'est faux.
Si c'est vrai c'est écrit et je l'ai entendu. Non, bien sûr que oui. En réalité, je ne peux que vous souhaiter une belle année 2016 avec une excellente santé morale au top grâce au soutien merveilleux des huiles essentielles. Mais utilisez-les, car elles peuvent entrer dans notre quotidien sans danger pour notre plus grand bonheur. Ton truc, c'est n'importe quoi.
Alors ça, Marius,
ce que je veux juste dire,
Marius, c'était notre article. Ouais. Faites attention à ce que vous lisez sur Internet et lisez-le jusqu'au bout.
Marius, c'est ce qu'on dit toujours à nos élèves.
Ne vous arrêtez pas au titre.
Quand il faut faire un exercice.
Merci pour cette belle intervention, Marius.
Plus mon défi avance, plus je commence à comprendre que les huiles essentielles sont victimes d'une certaine désinformation et que parfois on a pu avoir tendance à grossir le trait en parlant de leur danger. Voilà. En fait, ils disent, utilisez-les.
Non, okay. Mais c'est cool.
Non, c'est passionnant. C'est génial.
Sinon, à part ça, le vinaigre blanc, c'est vraiment inoffensif.
Ceci dit, effectivement,
j'en aurais d'autres comme ça.
Les huiles essentielles sont, faut pas trop les utiliser, faut pas du tout les utiliser sur les nourrissons, sur les femmes enceintes, parce que c'est très puissant.
Et puis surtout, faut savoir doser, quoi. C'est juste ça. Il s'agit pas de.
J'étais quand même super étonnée.
Mais bien sûr.
Tu es formidable.
C'était génial. Merci Marius.
Ça me permet de briller en société. briller.
Ouais. Exister.
Le salopard.
Vous avez bien raison, vous ne m'entendrez plus.
Tu me dis, je vous emmerde dans le cou. T'as bien fait, tiens.
Et moi, Marius, j'ai rien dit. Hein.
Mais moi, parce que toi, tu n'es qu'amour et.
Gloire
et moi, j'ai rien dit non plus. Hein. Parce que moi, je suis que focuterie.
Mais merci Starlet pour cet échange. Et donc, ouais. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, de vos expériences réussies ou ratées d'ailleurs, les choses qu'il ne faut pas reproduire. Si, c'est possible. Hein.
Du coup, je voulais dire un truc.
Vas-y mon Marius.
Non, mais il
y avait un truc qui te restait quand même en tête.
Ouais.
Quoi.
Mais c'est pas grave.
Mais prends le temps, ça se trouve, tu vas trouver le.
Non, c'est ça que je voulais dire. Oui. Delphine, alors. Par contre, toi, niveau corporel, tu mets plus rien non plus ou pas, Starlet?
Quoi?
Est-ce que tu fais ça pour tes sols et tout ça, mais pour ta personne? Parce qu'il y a ça aussi maintenant.
Ouais,
parce
que la douche. Est-ce que tu passes ton corps au cristaux de soude?
Non, parce qu'il y a aussi ça également. Il y a la nouvelle.
Mais prendre la pierre d'Alain.
Il y a la nouvelle chose aussi.
Ça fait un an que j'ai pas acheté de déo.
Voilà, c'est
ça. Là, ce matin, j'ai oublié de le mettre, mais j'utilise une pierre d'Alain.
Pierre d'Alain tout court.
Une pierre d'Alain que tu mouilles et que tu. Voilà.
Et c'est suffisant?
C'est pas un truc avec de l'aluminium?
Voilà,
par contre, j'ai entendu que la pierre d'Alain pouvait aussi être un petit peu.
Et il habite où, cet Alain?
Cancérigène, hein? C'est ça, cancérigène, ça que tu veux dire? Non.
Oui, parce qu'il a lu.
À cause de l'alu?
Ouais, bah oui. Parce qu'elle l'allume naturellement dans la pierre d'Alain.
Ouais, c'est vrai.
Mais quand c'est le gène de tu te chopes un cancer des aisselles.
Mais t'as pas essayé
non,
la
sang.
Mais oui.
Oh,
et sinon la pierre de Fabrice, t'as pas essayé non?
Non.
Voilà.
Parce qu'il a déjà fait.
Il a dit c'est pour rester. Je vais encore dire les conneries. Vous allez dire que je passe pour un con.
Mais pas du tout.
Il y a le nouveau truc où les gens se lavent de moins en moins.
Non, par contre, je me lave.
Ça c'est vrai. Non, mais oui, où les gens
et où qu'il faut une touche tous les deux jours ou
tous les deux, trois, même des fois. Oui. En fait, on dit que l'odeur au début est très désagréable et après
quand tout le monde pue au bureau.
Il y a un journaliste sur France Inter qui donc a témoigné effectivement, il s'est pas lavé pendant un mois.
Oh, mais c'est pas non, un mois tu peux pas. Non,
alors j'explique. À
ah
part...
bah explique. Hein.
Ça l'a démangé une...
Oh,
non,
putain,
ça l'a démangé une ou deux fois de le faire, mais il voulait faire l'expérience jusqu'au bout.
Pas que ça à mon avis. Jusqu'au bout.
Non, mais c'était justement pour démontrer
ça
qu'effectivement, tout ce qu'on utilise, gel douche, sont très, très, très décapants pour la peau.
Oui, c'est vrai.
Parce que votre peau, en fait, naturellement, produit une sorte de sébum.
Le parabène.
Et quand tu règles. si tu dérègles cette sécrétion.
Oui, en fait, ouais.
Et en fait,
on enlève la cire qui nous protège.
Exactement. Ouais. Et du coup, en fait.
C'est
ce qu'on disait. Ah,
il devait avoir une sacrée
couche.
Je vous
invite à aller sur France Inter pour c'était.
Regardez, je suis tout gras.
non, pas du tout. Et en fait, il a gardé le fait de se laver une fois par semaine, mais pas plus.
Oui, mais quand tu.
En fait, et au niveau
non,
des.
Pas, je pense que ce qu'on pourrait même. Faire, par contre, effectivement, c'est un petit peu extrême.
Réduire ses douches.
J'irai pas jusque là non plus. Tu prends ta douche, mais tu te laves pas entièrement. Tu fais que les zones critiques.
Voilà,
c'est-à-dire. Tu es obligé de te laver les bras, tout ça, à chaque fois.
C'est-à-dire, donc, les zones critiques.
Bah, tu te fais les aisselles, le zizi, les fesses et les pieds,
fait.
Quoi.
C'est ce qu'il fait, mais il est
plus. Ah, tu l'as fait le trou du cul.
Les fesses. Mon trou du cul se trouve dans mes fesses à moi, mais.
Putain, c'est un gros avantage que t'as, parce que c'est pas gagné, quand même, à la base.
Ah non, mais je ne. Non,
et toi
un truc, dit, bah... Moi, j'avais pas de trou du cul, j'ai pas ce problème.
Non mais voilà déjà ce mais bon
après
on a dû s'arrêter après le premier fini. Je sentais que ça allait
bah oui forcément
mais non mais c'est drôle en même temps
mais j'ai lancé un bon sujet quand même.
Non mais d'où mon idée du gel douche quand même.
Bah oui
ouais, non, mais j'ai filé la recette
mais c'est marrant ça. Mais quand voilà. Ça te démange tu dis le mec que... ça l'a démangé au bout de quelques jours.
Et les savons sur gras justement pour éviter d'enlever le sébum et tout.
Petite astuce et je pense que ça va clôturer.
On n'a pas d'invité, tu peux y aller.
Ouais, c'est vrai, mais bon, il ne faut pas qu'il fasse.
De toute façon, on reste manger là ce soir,
ouais.
L'huile essentielle d'arbre à thé donc, est une huile essentielle qui assainit.
Tea tree.
On peut en mettre une petite goutte dans sa crème de jour. la mélanger et ça évite les spots, les points noirs, les machins, ah ouais. tout ça, parce que du coup, ça t'assainit le visage.
D'accord.
Mais par contre, après, j'irai plus rien. Quand je me lave, je me lave tous les jours, mais je me lave jamais le visage, en fait, carrément. Et j'ai une peau qui est quand même pas mal.
Mais, tu mets un truc sur ta tronche, quoi.
Rien du tout. Non, il faut que je me lave vraiment à l'eau, et parce que sinon, si je mets du gel douche, j'ai des dartes.
Mais
en
c'est comme toi.
Elles se dessèchent, en fait.
Mais comme toi, et j'ai un problème avec ça. Et du coup, il faut que j'arrête de me laver le visage alors.
Exactement pareil alors.
Non, mais je me lave le visage, donc il faut que j'arrête de me laver le visage alors. J'ai des problèmes de dartres.
Il faut que vous laviez avec une eau micellaire ou un truc comme ça.
Ouais, parce que. Ouais, mais l'eau micellaire, ça m'a fait la même chose.
Non.
Pareil, si t'as des problèmes dans ton anus.
Mais justement, j'ai des dartres.
Tu laves plus ton anus.
Attends, mais j'arrache des lambeaux de peau, je te jure. C'est des trucs. C'est des larves de charançon que j'ai trouvées.
Oui, alors je te conseille d'arrêter de laver profondément ton anus. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, passons à autre chose.
Eh ben, allez, on est bien là.
Ah, vas-y, bah, ça fait longtemps. Elle a fait 45 minutes là, non?
Moi, mais ça
m'avait dit, j'ai pas grand chose à dire, ça va être rapide.
Tu étais notre invité.
Alors, moi, par rapport à ce journaliste, là, j'ai retrouvé, c'est Guillermo Alessandro. Je vous invite à aller sur bioalaune.com et où, justement, il explique son expérience et ce qu'il a dit au micro de Mathieu Vidard, qui donc était sur France Inter.
Bioalaune.com, c'est ça?
Bioalaune.com.
Excellent. Alors, écoutez, moi je trouve ce sujet terriblement intéressant.
Et il va conclure à chaque fois comme
ça. Merci, Marius. Eh bien, dans l'ordre du.
Attends, je crois que Marius va ajouter un truc.
Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors touche à ton cul. Dago, dago, chabou, tadou, tir.
Le fond de tiroir,
Donc moi je voulais vous parler d'un groupe plutôt d'une sorte de collectif, de quelque chose d'un peu conceptuel, le Crew Stupeflip, à l'occasion de la sortie de leur dernier album Stupvirus. Mais qu'est-ce donc que le Crew?
Le Stupeflip Crew ne mourra jamais.
Donc Stupeflip, le Stupeflip Crew, donc là comme ils se présentent, c'est le premier morceau de leur premier album, le Stupeflip Crew ne mourra jamais. C'est une sorte de groupe concept. C'est depuis une vingtaine d'années maintenant que le groupe tourne. C'est vraiment difficile de le cataloguer. Donc c'était aussi très difficile pour moi de faire une petite sélection d'extraits pour illustrer le groupe, à la fois parce que quand on n'est pas un peu dans leur délire, ça peut être hermétique. Vous allez peut-être pouvoir vous en rendre compte dans ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Et puis aussi parce que j'ai eu beaucoup de mal à simplement me limiter dans le choix des morceaux, parce qu'il y en a beaucoup que j'aimerais partager. Donc Stupeflip, c'est un groupe français, comme je disais, difficilement classable, qui a été formé en 2000, qui est composé de plusieurs membres et identités, donc King Ju, Cadillac et MC Salo. Alors pourquoi je différencie les membres...
Salo ou Allo?
Salo, S-A-L-O. Alors pourquoi je différencie justement membres et identités? Parce que derrière ces différents pseudos se cachent au propre comme au figuré, parce qu'ils sont tous masqués sur scène et sur les photos. Julien Barthélémy, alias King Ju, Stéphane Bélanger pour Cadillac et Jean-Paul Michel pour MC Salo.
Jean-Paul, oui.
Oui, c'est Jean-Paul Michel. Mais il leur arrive aussi d'emprunter d'autres identités au sein du crew, donc Pop-Hip, Reverman ou encore Sandrine Cacheton, la voix de synthèse féminine du Mac, qu'on peut retrouver dans le dernier album, qu'on a pu entendre aussi à notre micro, hein, la voix féminine du Mac que Marius a déjà fait intervenir sur nos intros. Depuis tout à l'heure, en parenthèse, je parlais du crew, donc crew C-R-O-U, donc c'est une phonétique qui est identique, mais l'orthographe est très différente du crew à l'américaine, la bande, le
crowdfunding, c'est ça ?
C-R-E-W, pardon.
Ah, j'étais sur Carmel Crew, moi.
Là, c'est Crew. Et donc, ça montre une certaine distance, enfin, plutôt même assez imposante distance que le groupe Stupeflip veut avoir avec les codes du business de la musique, mais aussi avec la société en général. Donc, pour présenter le style, si on arrive à faire vous allez voir, c'est un peu éclectique. Hein. Donc, ça va du rock au hip-hop, en passant par un peu d'électro, du métal, de la pop. Bref, c'est une belle tambouille, a priori pas très cohérente quand on met tout ça bout à bout, mais qui prend toute sa saveur quand on rentre dans l'univers de ce crew. Alors, on parle souvent d'album concept pour certains groupes qui veulent justement développer un projet, Florent Marchais notamment avec Bambi Galaxy ou des choses comme ça, qui délient tout un processus. Là, c'est carrément le groupe qui a un concept depuis près de 20 ans.
Alors, un autre petit extrait que je voulais vous passer.
Si tu veux bien.
Parce que là, ça ne se lance pas. Faire de la musique, faire un truc qui tape dingue à base de kick. Prendre des petits bouts de trucs et puis les assembler ensemble et écouter le résultat tranquille. Dans ma chambre, maintenant j'ai signé. Et il y en a plein que ça excédé. Mais c'était ça ou décédé sans CDD, sans avoir fait CD. Alors, pareil qu'un buzz ou le scoop est plus gros. Il fracasse la tête à base de caisse claire qui claque. Qui veut le truc qui prend en couille. Écoute le scoop est plus gros. Tu m'as un salaud. Janignac. Donc voilà encore un autre style très très différent de ce qu'on a pu écouter encore sur le premier extrait. Donc comme ils disent, ils prennent des petits bouts de trucs, ils les découpent, ils les assemblent de façon super efficace à mon avis. C'est-à-dire qu'en termes de rythme, de flow, les samples qu'ils utilisent sont des, ils utilisent beaucoup de choses très basiques en fait. Ils utilisent des orgues, bon tant pis, des choses, des samples qu'on a entendu par des effets qu'on a pu entendre. On parlait de la voix de synthèse du Mac, c'est quand même pas un truc qui est hyper recherché, mais la façon dont ils le mettent, ça fait quelque chose de très bien arrangé. C'est un groupe Stupeflip, vous en avez peut-être déjà entendu parler
il y a une vingtaine d'années,
c'était en 2003, puisqu'ils ont d'abord été connus, à mon avis, sur un malentendu initialement en 2003, avec le morceau « Je fume plus de shit », un morceau qui est interprété par l'avatar Pop Hip, donc le personnage Pop FM du crew, et donc si ça vous parle, c'est...
Ouais, ça me dit quelque chose. Ah bah oui, c'est ça.
Donc voilà, c'était un morceau qui paraît un peu léger, un peu niais, un peu naïf, tout ce qu'on veut bien. Mais en fait, quand je dis que c'est un groupe qui a été connu sur un malentendu, c'est parce que justement, ce titre pris indépendamment, il reflète pas du tout l'esprit de Stupeflip. Et d'ailleurs, quand on écoute l'album, la chanson qui lui succède, bah, c'est...
Je me défonce à la coque.
C'est celle-ci, ben non, dans la continuité.
Conscience que le temps passe et que la vie est brève. Je suis mal dans la rue et je suis mal dans ma tête.
Donc en fait, c'est le reflet à l'identique de l'autre groupe. Donc
c'est totalement l'inverse.
C'est l'inverse, c'est-à-dire que bah voilà, les gens ont pris le premier morceau comme un morceau très positif, très très ouais positive attitude quoi, mode Laurie quoi. Alors qu'en fait, le groupe est plutôt anticonformiste, provocateur. Et puis bah, sur le fond comme sur la forme d'ailleurs, et je pense, pour avoir vu pas mal d'échanges et d'avoir lu pas mal de choses sur eux, c'est pas un calcul marketing de vouloir se positionner en tant que rebelle, etc. Ils sont vraiment hors du système. Ils aiment faire péter les barrières et faire preuve de provoque. Donc leur univers, c'est quelque chose d'assez complexe, c'est assez à tiroir. Et paradoxalement, sous cette grosse couche de provoque qui peut même paraître agressive dans certains morceaux, c'est plutôt un esprit bienveillant. Ils ont plutôt envie d'être plutôt sympa, et d'ailleurs dans leur dernier album ils ont un morceau dans lequel ils se qualifient de terroristes bienveillants, donc une oxymore qui montre bien un peu leur double visage. Ils ont leur propre mythologie, ils ont créé la religion du stup, la menuiserie, des choses un peu qui sont très très dans leur concept, leur propre histoire, leur univers, qu'ils déclinent au fur et à mesure de leurs albums, particulièrement lors des nombreuses interludes qu'on retrouve quasiment entre chaque morceau. Et là j'ai encore un petit extrait à passer.
Le crew Stupeflip est là, entre autres, pour terroriser la population et par là même instaurer une nouvelle ère. L'ère du stup.
L'ère du stup.
Je tiens à signaler à mon auditoire que j'ai actuellement un pistolet collé sur la tempe. Je crains pour ma vie.
Voilà un peu l'esprit du concert. Alors c'est pas forcément de la musique FM.
On dirait un livre qu'a lu Christophe adapté.
Raconté par Delphine Seyrig.
Ouais, ça pourrait ressembler à Vernon Subutex.
Et donc, c'est pas un groupe qui a une grande portée philosophique, loin de là, mais ils abordent la nature humaine dans son ensemble, parfois de manière cachée, mais d'ailleurs sans chercher à surinterpréter les propos, avec beaucoup d'absurde, de second degré, voire de mauvais goût dans certains morceaux. On retrouve aussi beaucoup de thématiques liées à l'enfance, à la fois l'innocence, la naïveté, mais aussi beaucoup les angoisses, avec les titres comme Les Monstres, 35 animaux morts, Le spleen des petits, ou encore West Regions Inquisitor, avec un délire sur le monsieur qui est caché dans Casimir, en fait, le gamin qui découvre un jour que Casimir, il est vide, et qu'il y a un monsieur qui se cache dedans. Voilà, donc je vais vous faire
deux petits extraits également avec les monstres.
Est-ce que t'aimes bien les monstres ?
Les monstres ? Non.
Pourquoi t'aimes pas ?
Parce que ça me fait trop peur.
Pourquoi ça te fait peur ?
Parce que parfois il peut y avoir ceux qui sont sales. Très sales.
Les monstres. Déjà tout petit, j'aime bien les monstres. Les monstres.
Voilà, c'est un univers un peu torturé quand même. Hein.
Les monstres. Les monstres. Déjà tout petit, j'aimais bien les monstres. Les bestioles bizarres dans les cauchemars. Les monstres. Les trucs verts avec des poils ou les petits rampants. Les machins pas cool avec les bras.
Morceau suivant, donc 35 animaux morts. Là, c'est quelqu'un qui se rappelle de tous les animaux domestiques qu'il a eu dans sa vie. Et donc, qui ont tous connu une fin plus ou moins atroce. Vous allez voir, c'est un peu, c'est aussi.
C'est pas banal. Tu fais le bilan, ça va vite en fait.
C'est un peu particulier, donc vous allez voir. Enfin, c'est moi, ça m'amuse.
J'adore.
Et puis elles sont mortes, on les a mises dans la poubelle. Juste après les perruches, on a eu les poissons rouges. Mais ils sont morts très vite, ça manquait d'oxygène. C'était un petit peu triste avec le ventre à l'envers. L'eau était sale et c'est peut-être ça qui les a tués. Après, j'ai eu tout un tas de cochons d'Inde. Mais ils duraient pas longtemps dans leur petite cage en fer. Quelquefois c'était drôle dans la roue en plastique. Mais la plupart du temps, ils branlaient rien de rien. Exactement pareil pour les tortues d'eau. Elles puissent bien se faire chier dans leur boîte en plastoc. Vendeur m'avait dit qu'elles fait bien grandir. Dans leur carapace molle, ils ont fini par pourrir. Pareil pour les tortues.
Voilà un petit peu les thématiques qui peuvent être abordées. Donc vous voyez,
j'aime beaucoup.
L'hiver est bien barré.
Ça n'a rien à voir, ça fait penser à Ultra Vomit quand tu collectionnais les canards vivants. Tu sais.
Mais voilà, c'est dans ce type. Alors ils sont très très punks, ils sont influencés Beru, ils sont influencés sur toute la scène. Aussi très hip hop. Hein, on voit toutes les influences, il y a beaucoup de choses.
On a l'impression que c'est très orienté un peu rap.
Ouais. Mais tu vas voir, tantôt ils ont du rap, tantôt de la pop un peu niaise, tantôt de l'électro. Punk sombre, le chant peut être très crié, on vient d'entendre là. Fait d'énergie brute qui va succéder à un morceau très formaté. Donc la musique aborde des virages incessants à 180 degrés tout au long de leurs albums. Et là encore deux anciens extraits pour illustrer vraiment la différence qu'on peut avoir sur les morceaux. Donc Stupéflip vite sur l'album The Hypnoflip Invasion.
Marius.
Dans le ciel.
Moi je suis Rascar Capac et je t'attaque avec mon mag. La vie une chose trappe, pas de quartier quand les lyrics frappent. Mon sourire te glace comme un clic-clac qui grince, là qui revient mince. Tous les mardis pour te serrer la pince. Donne-moi le courage d'aller bouffer tous les nuages. Écoute mon cœur, écoute la rage, écoute ce texte en propre phrase. Écoute ce mec qui veut tréac, écoute cette mère seule qui craque. Écoute le cri des animaux quand on les enfouit dans un sac. On revient fier, tapis dans l'ombre pendant des millénaires. Ses poumons t'éclairent comme le DF ou nucléaire. Alors ferme ta gueule, les argémiens marchent seuls.
Voilà, donc ça, c'est un morceau qui est assez violent, enfin violent, assez punchy, bien rythmé, etc.
Les gamins, ils aiment bien.
Ils adorent ça. Hein. Et puis après, c'est le morceau où justement, c'est encore leur âme, pas leur âme d'année, leur bouc émissaire, pop-hip. Donc voilà, l'anagramme de hip-hop, mais la côté très FM, très justement ce qu'ils essayent de dénoncer dans le music business. Et donc, avec un morceau, vous allez voir, qui est un peu... Très différent, toujours le même groupe, mais voilà... Les mêmes interprètes, mais qui utilisent un avatar différent, une autre identité.
J'adore ton look 80 et tes yeux qui jettent des lasers.
Une vitaine flamme.
Je ferai tout pour te plaire.
Il me faut un des 80 là.
Ah bah ouais. Voilà,
oui, vraiment, ouais, sur tout ce qu'on a pu écouter, il y a quand même beaucoup de choses très, très, très différentes. Donc ça, c'était les trois premiers albums qui ont donc été faits entre 2003 et 2011, puisque leur dernier album était donc The Hypnoflip Invasion en 2011. Et puis, les revoilà, pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce qu'ils sont revenus justement en 2017, 6 ans après la dernière production, avec Stup Virus, le quatrième album, qui a vu le jour grâce au financement participatif, puisqu'en 2010, ils ont été virés de BMG, en fait, leur maison de disques. Et depuis cette date, ils sont indépendants. Pour information, ils demandaient 40 000 euros sur Ulule. Au final, ils en ont eu 430 000.
C'est ça qu'il faut qu'on fasse.
Dont 145 000 en 48 heures déjà. Donc leur truc, ouais, en 48 heures, ils étaient déjà blindés. Ils ont une fanbase qui est assez volontaire derrière eux.
BMG s'est pas mordu les doigts du coup derrière.
Bah, c'est un peu, oui, certainement. Mais, oui, mais ouais, ils étaient à peu près certainement un peu ingérables,
ouais,
je pense.
Ouais.
Et puis, ils ont un album qui a moins bien marché que ce qui était prévu. Parce que justement, parce que BMG voyait plus le succès du premier. Bien et sûr. Puis derrière, ouais, ça n'a pas si bien marché que ça. Donc ils ont eu des procès. Les albums ont été retirés des bacs, etc. Ouais. Enfin, il y a eu pas mal de sujets. Et puis, ils sont revenus avec un premier extrait, The Antidote, qui est sorti fin janvier 2017 pour faire patienter les fans. Donc, c'est ce premier extrait de Stup Virus. Voilà un peu le visuel du CD.
Dark shit, one shot, truc qui raye le pare-choc. Chaque attaque te plaque, rejoins le stup, les rois du chic chic. Chouk chouk musique, écoute le crew quand tu fais trac trac.
Forcément, quand c'est sorti sur les réseaux, tout de suite ça a créé un petit buzz. Et l'album en tant que tel, lui, est sorti en mars dernier, le 3 mars dernier. Avec, je vais vous passer juste quelques petits extraits assez rapides. La seule alternative du dernier album, qui reste quand même dans la même veine du premier, enfin des trois premiers, pardon. Donc le morceau suivant, Understup. Dans ce morceau-là, qui se qualifie de terroriste bienveillant. Donc ils sont toujours aussi si énervés. Et puis le titre éponyme, donc Stup Virus.
Enfilez vos protections Stup Virus.
Un peu plus électro peut-être celui-là.
Un virus est une petite boule d'acide entourée de protéines.
Bactériologique, truc chimique, stup fantôme, te rend paraplégique, psychotique, son posthume, le truc te soigne par tous les pores, droit ton système, ce virus est mortel, ouais, pour la vie, n'a pas d'estime, tu contractes des mélodies, t'as la pied,
donc, voilà, moi, toujours maintenant, comme pour le premier diptyque que j'évoquais, justement, je fume plus de shit, je refume du shit, c'est toujours difficile d'isoler un titre, car c'est bien le projet global qu'il faut écouter, dans lequel on peut... Enfin, il faut rentrer surtout pour mieux l'apprécier, ou pas d'ailleurs, parce que je comprends qu'on puisse être complètement hermétique à ce style de musique. Et puis pour conclure, je vais un petit clin d'œil à Marius, qui n'est pas le seul à en vouloir aux gentils mammifères qui se baladent dans nos jardins, puisqu'ils ont un morceau qui s'appelle les cages en métal, donc sur les voitures et les dangers de la voiture. Donc juste le premier morceau, enfin, la première phrase. Donc voilà le crew Stupéflip que je voulais vous présenter, parce que moi c'est quelque chose, c'est vrai que je suis depuis un petit moment, et puis là c'est vrai qu'avec la ressortie de leur dernier album, je suis retombé dedans, c'est vrai que ça tourne pas mal à la maison, peut-être trop au goût de Delphine, mais c'est vrai que je l'écoute très, très régulièrement. Et puis je sais pas vous, qu'est-ce que ça vous évoque, est-ce que vous connaissiez, est-ce que ça vous a intéressé, est-ce que...
Oui, moi je te dis, je pense, alors du coup si ça fait pas 20 ans, ça devait faire un certain nombre d'années, quoi, une quinzaine d'années, et il y avait un ou deux titres qui avaient attiré mon attention, et je regrette presque de pas avoir été plus loin à l'époque, parce que ce que j'entends là, ça me plaît vraiment. Ouais.
Alors, il y a des trucs très 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 barrés, des petits morceaux de 40 secondes qui viennent un peu s'insérer comme ça entre des morceaux. Tu peux pas écouter ça comme un morceau, mais c'est vraiment dans sa continuité qu'il faut écouter un album, quoi.
Moi, c'est ce que j'aime bien, en fait, dans l'idée. Ouais. En fait. Justement, c'est la variété du truc. Ouais. C'est-à-dire que là où le côté rap, moi, des fois, peut me faire chier, hein, on en a déjà parlé, mais c'est justement le côté où tu d'un morceau à l'autre, tu t'attends pas à ce que...
Oui.
Tu sais, au changement complet d'atmosphère. Non, franchement, je trouve ça pas mal. Enfin, j'en avais un peu entendu parler, mais il y a quelques années de ça, c'était un album où la pochette, ils étaient dans une espèce de vaisseau spatial.
C'est le tout premier.
C'est celui que j'ai connu, en fait. Merci. Mais pareil, en fait, j'avais collecté quelques titres, mais...
Je refume du shit, c'est celui.
Et moi, j'aime beaucoup leur sonorité électro, un peu sombre. Oui. Ça, c'est le genre de truc qui me. Mais en même temps, c'est vrai que le côté chanson complètement barré me fait vraiment marrer. En fait, j'aime bien le mélange des genres. Ouais. En réalité, ils l'assument complètement, donc c'est vraiment. Non, c'est chouette.
Et toi, Christophe, oui, tu voulais.
Moi, je ne connaissais pas du tout. Vraiment, c'est une découverte. A priori, moi, j'aime bien les textes. C'est à la fois barré, mais on a l'impression aussi qui dénonce un petit peu tous les travers d'un certain nombre de choses dans notre société. Quoi.
Ouais, voilà, c'est vrai que si tu t'arrêtes, si tu les lirais comme ça, tu te dirais c'est peut-être un peu niais, voire naïf, tout ce qu'on veut bien. Mais quand tu vois tout un album, tu comprends où ils veulent en venir. Alors, ils sont pas là pour révolutionner tout, mais c'est juste mettre, comme ils disent, un coup de pied dans la fourmilière de temps en temps, réveillez-vous, va falloir vous réveiller, ils le répètent souvent, ce genre de truc-là. Ouais. Et puis n'oublions pas les choses essentielles. Quoi. C'est un peu leur message, malgré leur côté... très très provoque, je pense pas que ce soit des gens très méchants dans la vie, c'est pas les crews de rappeurs, etc., qui sont là à se poser, etc.
Qu'il y a une espèce de recul, vraiment de gros recul par rapport à tout ça qui fait que ça les rend sympathiques, en fait.
C'est bien écrit.
Mmh. Ouais, donc, ça a l'air.
Écoutez, ravi que ça vous plaise.
Ouais.
Hein,
ça donne envie d'écouter le dernier album.
Ouais, moi aussi.
La playlist sera sur Spotify, donc n'hésitez pas à aller jeter une oreille. Et puis si ça vous a plu, si vous avez découvert ou quoi que ce soit, ou si vous aimez pas du tout, n'hésitez pas à nous dire. Ou si vous connaissez des choses dans le même genre qui pourraient nous intéresser, pareil, nous sommes toujours curieux. Voilà, c'était tout pour moi.
Waouh.
Je vais donc céder la parole. Dans la suite, c'est à Marius. Et tu es prêt, Marius? Ton jingle, Marius, c'est à ton tour.
As-tu vu les belles canouilles? As-tu vu les belles canouilles? Les belles canouilles dans le marécage? As-tu vu? As-tu vu? As-tu vu? As-tu vu?
Bordel de merde.
Ok, c'est pas le même que Christophe, c'est moi qui l'ai fait tout seul. C'est un peu mon bébé, j'en suis fier.
Pas tout à fait, c'était le premier cours sur Logic.
Ouais, mais t'as un maître.
On n'a pas eu déjà cette discussion.
Ils sont mignons tous les deux.
À chaque fois, on l'a
fait. La section avec nous, ils sont trop mignons.
Et en même temps, t'as raison, on peut tout à fait être fier de son bébé trisomique. Hein.
Ça n'empêche pas de l'aimer. Hein.
Bon, et bien moi, comme je dois expliquer d'où viennent les deniers du culte, je vais vous faire part du pèlerinage que nous avons effectué avec sœur Anne de la confrérie des coquines bourgeoises Saint-Titouche-la-Roche-Pou.
Saint-Titouche-la-Roche-Pou.
Maintenant, nous sommes partis donc le week-end dernier en Bourgogne, dans la petite bourgade de Montlhy. Mmh. Dieu que c'est beau déjà, rien. Beau et bon à dire. Bah oui, figurez-vous qu'en fait, tous les ans, à la même date, le samedi et le dimanche de Pâques, se tient le printemps de Montlhy. Alors, le principe est tout simple, il faut se rendre à Montlhy, en premier temps. Le printemps de préférence, au week-end de Pâques. Et en fait, vous allez acheter, durant le week-end, vous allez vous procurer un très joli verre que vous achetez 7€. Et ensuite, vous pouvez vous balader dans ce charmant petit village où 17 domaines, dont celui de ma cousine Germaine, Cataldina Lippo, du domaine de Ouellet-Porcheret, un petit coup de pub, ouvrent leurs portes de leur cave ou de leur cuverie pour vous faire découvrir à chacun leur passion qui les anime.
Où ton verre? Montre-nous ton verre.
Non, je l'ai pas. Je l'ai cassé.
7 euros.
Je l'ai cassé, vous comprendrez après.
D'accord.
Vas-y. On l'a déjà compris.
Et,
hein.
Et vous me direz, je vous entends déjà, bande de petits sauvages. À quoi c'est donc qui sert-il le verre?
Mais
oui.
À quoi sert-il le verre? Ça sert, moi j'ai mon idée, mais.
À la dégustation du sang du.
Bah oui.
Oui, parce qu'avec le verre, vous obtenez donc le droit de déguster dans chaque domaine. Et je peux vous dire que pour déguster, on déguste.
À volonté.
À volonté, ouais. Vous buvez tous les crus. Vous, de toute façon, vous prenez ce que vous voulez. Vous descendez dans les caves. Et là, vous avez des personnes qui sont là du domaine pour vous faire goûter chaque cru. En fait, vous goûtez une Allez, une bonne demi-douzaine.
Une bonne soixantaine de trucs.
Une bonne dizaine de vins différents. Donc, si on fait les 17 domaines. Les 17,
ouais, c'est pas possible. C'est sur une journée ou c'est plusieurs jours?
C'est sur deux jours. Oh, Il faut deux jours. Il faut deux jours et quand on
croise. Les 17 domaines.
Et je peux vous dire que quand on croise toutes les personnes dans ce petit village, parce que c'est pas très grand, Montlhi, c'est vraiment charmant et on croise tout le monde avec le sourire aux lèvres, avec leur verre à la main.
Bah oui, forcément, ils ont le sourire aux lèvres.
Et c'est une ambiance.
Moi, je l'aurais aussi. Franchement, il est pas cher le verre, 7 euros, je vais bien le payer 20.
Non.
7 euros pour déguster plusieurs trucs.
C'est pour ça,
c'est dans plusieurs domaines.
Bah oui, moi je
ce serait à faire pour
est-ce que c'est un verre, c'est un verre par domaine.
Non.
Ou c'est un verre à l'entrée, c'est que le contenant.
Tu arrives dans Montlhi en fait, tu peux acheter tes verres directement au domaine. Et sinon tu vas à la mairie et là tu achètes ton verre et avec ton verre donc qui est spécifié printemps de Montlhi 2017 machin, là tu rentres dans tous les domaines.
C'est pas un truc en plastique, ce un verre, gobelet ah non, et c'est coquette, un très joli verre. Verre. Ah oui.
Et cassé comme un con.
Ah mais quel con. Et il est où celui d'Anne?
J'ai dépété. Anne
elle l'a cassé aussi.
Elle l'a perdu, elle était pleine.
Oh là là.
donc avec Anne donc on a pu
c'est bourguignon hein.
Anne de la confrérie des coquines bourgeoises Sainte-Nitouche de la Rochefort. Donc nous avons pu parcourir les 17 domaines où en plus des visites de caves et des dégustations, donc on a tout un tas d'artisans locaux qui sont ici, qui sont en plus dans les domaines installés et qui font de l'artisanat, qui font à manger, on a du fromage,
des escargots.
Il y a des escargots chez ma cousine.
Du jambon de Bourgogne.
Chez ma cousine, il y avait un food trucks. Bon, c'est moins local, mais c'est très très bon également.
Ça dépend ce qu'il fait.
En fait, et il y a un groupe, et en fait, il y avait un groupe qui jouait. Donc là, le groupe cette année, c'était Intrigue.
Oh, mais je les connais, ils sont top.
C'est qui Intrigue?
Intrigue, c'est un petit groupe dont je suis le batteur. Et donc, nous, on a joué donc au domaine Montlhi-Douaré-Porcheret. On a joué tout le week-end, et donc c'était nous, c'était une des activités qui avait proposé en fait.
Alors là, t'étais au centre
de la.
Là, les feux des projecteurs.
J'étais surtout sous le feu du pinard. J'étais surtout sous. Et donc, dans son domaine, il y avait des morceaux. Enfin, nous, on jouait des morceaux.
Tous
il y avait quelqu'un après
temps,
qui est venu qui a joué des morceaux également un peu plus paillard, un peu plus bourguignon dans le cru. Il y avait donc cette activité du food truck. C'est en fait, après, donc, dans le domaine, on peut commander des bouteilles, les boire sur place. Là, ce qui se passe énormément
les
là-bas.
Boire, tu sais, tu veux.
On peut boire, on peut commander la bouteille, en fait, se mettre, il y a des petites tables qui sont là, donc on peut se poser, boire un coup, écouter de la musique, après repartir dans un autre domaine. C'est vraiment libre tout le week-end.
Tu repars en bagnole?
Génial.
Mais nous, on dormait sur place.
Vaut mieux.
C'est vraiment génial parce que pour 7 euros, en fait, tu peux vraiment faire une découverte donc d'un village que tu ne connais pas. Montlhi, c'est pas le plus connu de la Bourgogne. Tout le monde fait référence à Beaune.
M-O-N-T-H-E-L-I-E.
Ouais.
Parce que tu dis Montlhi. C'est quelqu'un qui s'appelle Montlhi. Ouais. Bon, ça...
Montlhi en Bourgogne, c'est à une petite dizaine de kilomètres de Beaune.
Ça devait être beau à la fin du week-end, hein, parce que. Non
c'est... Ouais, c'est bien.
Il y avait des gens par terre, partout.
Non, c'est pas à ce point-là quand même. Mais tout le monde, le samedi, on va dire que le samedi, c'est une journée où tu vois vraiment tout le monde passer, où tu sais que c'est vraiment une journée où tout le monde est gay,
c'est
où tout le monde. Il y a des balades en calèche, enfin, il y a vraiment tout un ensemble qui est fait qui est pour vraiment faire apprécier ce petit village, quoi.
Donc c'est ça, bien, c'était. Moi, j'adore ces initiatives.
Tous les ans, en Bourgogne, il y a la Saint-Vincent tournante.
D'accord. Ça, en fait, t'achètes pas en verre, t'achètes un paquet de capotes.
C'est autre chose, ça.
Ça s'adresse à. C'est la fin.
C'est le de la tournante.
C'est la, la fête des vignerons.
C'est
vignerons,
pour un autre moment.
Et en fait, le Montlhi est le seul petit village qui, avec l'attrait qu'il y a eu à leur Saint-Vincent tournante, ont gardé ce principe de faire une fête tous les ans, donc au week-end de Pâques.
T'énerve pas et t'as rien fait la table.
Mais c'est quelque chose que je vous invite à faire, à vous renseigner. Donc
là, tu le vends bien.
Ouais, carrément.
J'avais écrit, je regarde même plus ce que j'ai écrit.
En plus, la Bourgogne, c'est pas très loin de chez nous, hein. 3 heures de route, 3 heures et demie.
4 heures et demie.
La Bourgogne, c'est très en longueur aussi, ça dépend où tu
vas. Mais Beaune, c'est le milieu, donc. Et puis Beaune, c'est le plus joli, je veux pas dire. La Côte d'Or, c'est simplement fort.
L'année prochaine, c'est Canquillou, non, qui fait
l'animation. Là, on peut, il y a moyen. Mais l'année prochaine, on peut aussi y aller pour déguster, pour jouer et déguster en même temps, parce que c'est quelque chose à faire. Et en plus, le vin de Bourgogne est simplement formidablement bon. Nous avons fait notre petite commande, on est reparti avec nos bouteilles, on en a bu beaucoup sur place, certes, ok, d'accord. Mais on en a ramené, le vin est très bon, je vous encourage à y aller. Voilà.
Super. Merci beaucoup, Marius.
Merci,
Marius. T'as su partager ton
mon amour du vin.
C'est clair.
Oui, voilà. Ça
ton expérience.
Ça, c'est une des photos. Oui,
que...
Voilà, c'est ça. Elle non, chose. Ça, c'est les verres du domaine, parce qu'on avait notre bouteille à nous. On a été payé en pinard, donc... En fait... Non, ça, c'est les vers du domaine. Non, j'ai pas de photo des vers, mais c'est des très très jolis vers tulipes qui sont vraiment très très jolis, sérigraphiés. Très jolis. C'est ça qu'on dit. Hein.
Oui.
Bah écoute, bravo. Merci, merci Marius.
Voilà.
Didouille.
Ah, c'est moi.
Oui, c'est toi. Donc, ta rubrique s'appelle la tarte au poil, mais je crois que tu vas.
Ah, oui, c'est une petite.
C'est pas grave.
On va c'est un poil qui dit. On va te laisser... Voilà, un poil gris.
On va te laisser la présenter. Mais...
oh, poil gris.
Avant cela, on va quand même te mettre un jingle, il n'y a pas de raison.
Un jungle.
On plie bien la tarte au poil une fois.
Moi, ou rien.
Putain, mais faut que ça se touche, quoi. Faut une soirée fromage blanc ou des massages à l'huile d'olive, je dis pas, mais là, c'est de la partouze pour Dalai Lama, là, des conneries.
Moi, ou rien.
Moi, j'adore mon jingle.
Moi,
ah, il est top.
Ah, moi, vas-y,
Didouille.
Oui, alors, j'ai effectivement décidé de changer... Yo, Nanette, c'est Anne de...
Anne de la...
Sœur Anne de la Roche.
Attendez, je vous le sors tout de suite.
La Roche-Pot.
Anne de la confrérie des coquines bourgeois Saint-Nitou, de la Roche-Pot.
Bonjour coquine. Oui, alors moi j'ai décidé de faire un sujet qui est un petit, qui change un petit peu de ce que je peux proposer. Hein.
Enfin.
Parce que j'ai eu l'occasion d'être invitée. Pour participer à un escape game. Donc on
mais
en avait
qu'est-ce qu'un escape game.
Bah, c'est Starlet qui en avait déjà parlé, de ce qui il venait de s'ouvrir. D'ailleurs, c'était le premier escape game qui s'est ouvert en Normandie.
Je ne l'écoute que trop.
Qui se trouve rue Alsace-Lorraine et qui s'appelle Brainscape à Rouen. Et donc nous étions invités, donc on a dit allez bingo, pourquoi pas, c'est l'occasion de connaître ce que c'est que l'escape game. Donc nous sommes partis à 6 puisque maximum de joueurs dans les salles c'est 6. Et avec l'idée de faire un des scénarios, des scénarii d'ailleurs, proposés qui était 60 minutes plus tard. Mais je vous expliquerai, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Alors, qu'est-ce qu'un escape game?
Qu'est-ce à dire?
Juste, pas de spoil parce que je voudrais y aller. Aucun spoil.
Okay.
De toute façon, il y aura aucun spoil parce que sinon, ce serait pas marrant.
Bah voilà.
Voilà. Et je comprends.
Pourquoi t'as appelé ta rubrique tarte au spoil?
Oh, très bon.
Au spoil. C'est bon, ça. Merci, Arnaud. Le principe, 5 salles, 4 thèmes. Trouver le moyen de s'échapper d'un univers recréé dans une salle. Voilà. Avec pour seule arme l'observation, la logique et surtout la communication. Alors, c'est une réservation que vous pouvez faire en ligne, hein, ce qui a été fait d'ailleurs. Hein, notre copain qui l'a fait, il s'est trouvé un peu coincé. Ça, c'est, on va dire, c'est une petite critique qu'on va émettre d'ailleurs. Donc nous
dénonce, tu as raison, dénonce.
Il avait réservé pour la salle 60 minutes plus tard, où nous étions censés chercher l'antidote permettant de sauver la Terre, d'être bouffé par les zombies. Donc nous nous
tout
sommes présentés à 23h, dernière heure pour les inscriptions dans les salles. Donc ça fonctionne de 10h du matin jusqu'à 23h. Et quand nous sommes arrivés à l'accueil, il a donné donc son nom. Voilà, j'ai réservé, oui, en ligne, oui. Ah, c'est quoi votre nom? Il donne son nom. Ah, j'ai pas le même nom. Donc déjà là, ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on s'est retrouvés à ne pas pouvoir éventuellement participer à
ça,
ce qu'on voulait. Mais c'est surtout que c'est pas précisé. C'est-à-dire que tu peux te faire avoir facilement si... Moi, je suis désolée...
C'est le principe du surbooking d'American Airlines, en fait.
Oui, mais tu vois, demande enregistrée confirmée, donc pour moi, tu l'as, quoi. Et méfiez-vous, il faut que vous receviez vraiment un mail de confirmation.
Tu ne peux pas réserver par téléphone, c'est qu'en ligne.
Je ne sais pas, mais en tout cas, tu as les coordonnées téléphoniques.
Mais... Une petite précision, c'est lié à un problème de l'ordinateur qui fait que...
J'allais y venir.
Ah bon, vas-y. Tu allais détailler, je pensais que tu allais détailler.
Non, j'allais expliquer qu'en fait, la personne nous a expliqué que l'ordinateur, il se pouvait que quand il y avait deux personnes intéressées sur un créneau horaire et sur un même salle et un même thème, bah, l'ordinateur prend en compte celui qui a été le plus rapide dans sa réservation. Donc... Et du coup, ils nous ont proposé une alternative et ils nous ont proposé une salle qui s'appelait la salle dont le thème était la DGSE, donc Direction Générale de la Sécurité Extérieure.
Wow.
Salle qui est normalement exclusivement réservée pour les comités d'entreprise, parce que sachez que
il y a énormément de d'escape games proposés pour créer team une cohésion building. Au sein des équipes dans les entreprises. Building, etc. Donc nous avons accepté. Nous avons accepté. Donc nous, notre mission, c'était intégrer la DGSE. Et pour ce faire, fallait pas qu'on se fasse exploser la tronche.
N'en dis pas trop.
Non, non. Bah, c'est le sujet, je dis juste le thème, voilà. Alors, ça commence par un checklist par le Game Master. Donc, on est tous dans une salle au milieu.
Qui est le Game Master? Il fait partie de l'équipe?
C'est le maître, ce sont des maîtres du jeu. Donc, t'as celui qui donne.
C'est un côté très jeu drôle, ouais, effectivement.
Qui va te donner les consignes générales. Donc, consignes de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, en l'occurrence, communiquer, observer, travail d'équipe. Pas besoin d'exploser les meubles, d'exploser des cadenas ou quoi, ou caisses. Chaque objet qui pourrait vous servir d'indice ne servira qu'une seule fois. Évitez de vous éparpiller dans les objets, c'est un indice trouvé, vous mettez de côté puisqu'on ne réutilise pas et des fois on peut se gourer avec les clés de cadenas et tout. Donc tout ceci pour essayer de vous faire avancer le plus possible. Alors, en ce qui concerne le Brainscape à Rouen, vous avez deux salles pour la légende des cinq croix. Donc un thème de salle, une salle pour Vector Industries ou la Industries pardon.
Non, Industries c'est bien ça. Industries,
mais non parce que j'ai dit Vector, j'ai dit tiens ça sonne Industry. Allemand mais c'est Vector
Industries.
Ça fait un peu espagnol.
Quattro cinco cinco seis.
Industries. Hey, ici. Sorte de reprise russe des Jackson.
60 minutes la légende des cinq croix, c'est ça lit l'histoire et
Jeanne d'Arc, c'est pas sûr.
Oui, c'est celui avec Jeanne entre autres. 60 minutes plus tard, donc c'est une histoire, un scénar sur les zombies avec un antidote qu'il faut trouver. Vector Industry, c'est la suite de 60 minutes plus tard, parce que 60 minutes plus tard est un des plus difficiles et a énormément de succès. D'accord. Et il y a aussi l'étrange bureau de Théodore Monod. Plus, bon, ben, la salle qu'on a alors, découverte.
Pourquoi cette salle est réservée plutôt au CE?
Faut être plus nombreux. Parce que
alors, nombreux, 6, on était bien. Il faut savoir qu'on ne peut pas être plus de 6 dans chaque salle, par contre.
Parce qu'ils acceptent plus de gens.
Et dans celle où on y était, effectivement, là, tu peux en accepter plus, mais c'est limite quand
jusqu'à
même. 8, hein.
Jusqu'à 8, en fait.
Voilà, jusqu'à 8. Chaque salle aussi a un décor bien particulier. Il paraît que celui de 60 minutes plus tard est super. Le nôtre,
vous ne le saurez jamais.
Mais si, parce que ils ont demandé les coordonnées de notre copain. Alors peut-être qu'il y aura un geste commercial, on espère. Et dans ce cas-là, on va y retourner parce que on a passé. Ludo est là. Hein, on a passé véritablement un moment.
Ça doit passer
c'est
super vite, non?
On n'a pas vu le temps passer. Et sachez que nous ne se deviendrons jamais membres de la DGSE.
Vous avez échoué
à une minute.
Merde.
Alors il nous a laissé continuer parce qu'on était sur la fin et comme c'était une gestion à faire, c'était un peu compliqué.
Et surtout qu'on avait trouvé le principe de la dernière.
Voilà, on avait tout trouvé, mais c'est vraiment un travail où il faut vraiment communiquer. Alors au début, quand vous arrivez dans la salle, honnêtement, vous en avez. Enfin, on regarde partout, je ne spoil pas, mais cette. Ce surnombre de choses autour de vous, on a tendance à vouloir partir un peu dans tous les sens et c'est là qu'on peut faire des erreurs. Parce que, mais en tout cas, 60 minutes, on ne les a vraiment pas vu passer. On a passé un moment super.
Ça doit même passer super vite.
Mais carrément. Et
à s'engueuler.
On est sorti. Non, au début, il y a eu des moments.
Tension.
Parce qu'on était tous un peu ahués à dire, on voulait absolument avoir un petit peu de notre gloire parce qu'on avait participé à la trouvaille d'un indice. Alors, je ne cache pas qu'au début, on en a un peu chié. Mais il faut savoir que dans chaque salle, vous avez un maître du jeu. Et quand il voit que ça
Il reste là, le maître du jeu.
Le note, il est avec nous physiquement parce que c'est une salle particulière. Par contre, dans les autres salles, vous avez un écran. Et sur cet écran. Vous avez votre maître du jeu qui peut vous aider pour trouver un indice qui va vous permettre de vous débloquer.
Qui te lance en fait, oui.
Voilà, ils vont faire des petites relances comme ça. Si vous avez un souci, il faut faire des grands gestes et tout. Dans ce cas-là, ils interviennent. Mais enfin, c'est pas qu'on est laissé vraiment tout seul. Il y a toujours quand même un suivi de la barre d'un maître du jeu.
Toujours quelqu'un qui est là. Ouais.
Voilà, il y a toujours quelqu'un de présent. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Donc, ce même Brainscape a organisé au donjon ou la tour de Jeanne d'Arc.
Excuse-moi, Didier.
C'est eux ?
C'est pas eux. Hein.
Ah, ouais. Ah, ben moi j'ai lu ça, que c'était
non,
eux.
Non, c'est pas non, eux.
C'est la métropole.
C'est la métropole de Rouen. Ouais.
Oui, mais c'est Brainscape.
Peut-être qu'ils ont filé un coup de main.
C'est Brainscape qui a organisé les scénarios. Hein.
Peut-être, mais en tout cas, c'est.
Ah, ben moi j'ai lu ça sur le Paris-Normandie.
C'est la métropole de Rouen en tout cas qui a mis en place le.
Faut pas croire tout ce qu'on lit.
Escape Game 2.
Donc celui. Donc celui-ci sera c'est un escape game historique et culturel, ouais. Puisque voilà, le principe c'est ça peut se jouer entre 3 et 8 joueurs qui auront 60 minutes pour s'échapper du donjon. Sachant que le donjon, alors pour mémoire, hein, 35 mètres de haut, mur épais de 4 mètres, vestiges du château de
Philippe Auguste. Mur épais de 4 mètres.
Bah oui. 4 mètres d'épaisseur.
Non, mais ça fait plus
de 4 mètres. 4
mètres. Ouais.
4
mètres.
Bon mètre.
4 mètres, là. Voilà, je crois que je l'ai bien, là.
Parce que Ludo, il te fait croire, mais non.
vous savez quoi ? Ça me rassure carrément, en fait.
Ça serait plutôt 40 centimètres. Oui.
Enfin, toujours est-il que vous savez qu'il avait servi de bunker à la Seconde Guerre mondiale, ce donjon ?
Avec des maintenant, 4 mètres, oui.
Bah moi, non, je savais pas. Voilà, non, je savais non, pas. Non. Donc, c'est un temporaire. Enfin, on va dire un temporaire, ce Escape Game. Il vient d'ouvrir, là, en avril.
Un saisonnier.
Voilà, c'est un saisonnier. J'ai vu... alors, on dit que c'est pour la période estivale, mais j'ai vu que ça a continué jusqu'en octobre 2017. Donc, à vous de vous renseigner. Donc, vous avez tous les coordonnées sur l'Office du tourisme. Mais je vous invite vraiment à vivre cette expérience. Moi, j'ai adoré, mais quand je dis adoré, juste été frustrée parce que j'aurais bien voulu être dans une ambiance un petit peu plus glauque comme c'était prévu, entre guillemets. Alors, notre fils a fait La Légende des Cinq Croix. Il est revenu, on s'est dit, bon, c'est un truc un peu historique, Jeanne d'Arc, machin. Mais il nous a dit pas tant que ça. Et il est revenu enchanté. D'accord. Et il a revécu l'expérience hier sur un autre thème. Et il était à fond. Et en fait, on est à fond. Juste quand le maître du jeu arrive, on vous dit, il vous reste 10 minutes. Parce que vous avez un décompte dans les autres salles aussi, digitales. Et le temps passe très vite. Alors, nous sommes sortis au bout des 60 minutes de notre salle. Et on était, enfin moi j'étais dégoûtée parce qu'il y avait un groupe sur je sais plus quelle salle, ils avaient leur petite pancarte, c'était la 54e équipe à avoir résolu l'énigme. Nous on est reparti bredouille. À une minute
Brocouille,
nous avons échoué.
Dans le bouchon noir.
Voilà, nous avons échoué. Donc si vous avez l'occasion de vivre l'expérience d'un escape game, franchement faites-le, c'est un moment absolument génial. Alors pour les enfants, c'est à partir de 9 ans et accompagné.
C'est ce que j'allais dire. Je me suis renseignée.
Et accompagné, autre chose peut-être à savoir, vous avez des heures creuses. Donc les prix varient entre 7,50 € et 17,50 €.
D'accord.
Ah, je suis coupée. Je ne m'entends plus.
Non,
on t'entend.
Bon, bah, tant mieux. Donc, bah, si vous y allez, pensez à moi, parce que peut-être qu'on s'y retrouvera, parce que j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Absolument à faire. Voilà. Sur Rouen, rue Alsace-Lorraine.
Ok.
Bah, c'est-à-dire, comme tu dis, il n'y a pas grand monde, il y a une grande majorité qui ne résout pas les énigmes.
Alors,
c'est ça,
parce que tu as un temps donné, en fait. 60 minutes.
Sur toutes les salles.
60 minutes sur toutes les salles, sachant que chaque salle a des degrés de difficulté. Et les 60 minutes plus tard, en hommage au film, hein, 28 jours plus tard, c'est une des salles les plus difficiles. Il n'y a que 30% de réussite sur cette salle.
Eh ben.
Ah oui.
Mais par contre, bien. Tu te laisses embarquer, c'est absolument génial. Vraiment.
Bah, écoute... On est combien, nous? Ah ouais.
Alors, après, il faut aimer les énigmes et les.
J'adore
les
ça.
Et les casse-têtes et les raisonnements.
Alors, moi, ce que je vous proposerais bien, c'est le donjon, parce qu'on est suffisamment.
Alors, donc, je disais, il faut aimer les casse-têtes et les raisonnements logiques, etc. C'est-à-dire que, faut pas être. Si ça vous.
T'as l'air de mettre en doute nos capacités dans la.
Non, mais t'as raison, c'est pas pour moi.
Je dis juste que c'est un truc pour apprécier ce genre de jeu-là. Il faut aimer le côté énigme, le côté puzzle,
ouais,
chercher, rassembler les indices, aller trouver des trucs et des combinaisons, etc. Voilà, si vous aimez ce genre de truc-là.
C'est ma passion.
Alors, ça va t'éclater.
Ah, tu vas t'éclater.
Voilà.
Heureusement
que le gars il est là pour te filer des indices quand même des fois quand tu
des petites relances hein, parce que sur le coup t'es
déjà, content. Il faut que tu comprennes comment c'est glandé le
exactement.
Truc. Parce
mais
que...
déjà t'arrives, tu regardes, t'observes parce que t'as bien compris qu'il fallait observer au départ. Alors t'es content parce que t'échanges. Et vous avez vu ça ressemble à ça ressemble à rien. Et puis bon malgré tout il y a un truc à faire. Mais tu n'y arrives pas. Et là, je viens vous aider, je viens vous donner un indice.
Alors, plutôt que de gueuler sur le voisin, tu demandes un indice, quoi.
Et est-ce que... Est-ce que
attends, laisse-moi deviner.
Je sais
tu
pas,
étais le voisin.
Non, c'est mon fils. Ah.
Est-ce que quand on a regardé beaucoup Fort Boyard, c'est un plus?
Ça n'a rien à voir. Il n'y a rien de
physique.
Il n'y a rien de physique.
Non, ça n'a rien.
C'est tout dans la communication. Ah,
c'est dommage.
En fait, on est 6 et bien souvent, le nombre 6 doit vous aider pour résoudre.
Mais n'en dis pas trop. Non, ça pourrait
le diable, 6-6-6.
C'est sur la répartition, les choses
comme ça. Moi, j'ai envie de jouer.
Ça pourrait se rapprocher de, des fois, enfin, de façon plus ou moins lointaine, de jeux comme Myst ou ce genre de choses-là. En fait,
d'accord.
Fois,
voilà.
D'accord, ok. Je
ne connais pas.
Jeux vidéo,
pour ceux qui connaissent. Voilà, mais c'est le même principe d'énigmes, de suite de chiffres, de suite logique, ce genre de trucs-là.
Non, j'adore ça.
De cadenas déverrouillés, etc. Mm. Voilà. Ok.
Bah, pareil, hein, s'il y en a qui l'ont testé. Et puis...
bah, on avait,
si vous avez
proposé,
réussi.
Mais c'est pas grave, nous on ira avec des amis.
Les 60 minutes plus tard, n'hésitez pas à venir vous la péter et nous le dire. Non, on le fera avec des amis aussi.
C'est pas grave.
Bah, on peut se le faire.
Oui, bah, j'avais proposé il y a déjà un an, mais c'est pas grave. On ira avec des vrais amis.
Starlette.
Non, il n'y a rien. Non,
bois pour oublier les films.
On s'est fait inviter.
Ouais, oui, mais peut-être que nous aussi, on aurait pu vous inviter.
Bah, tu peux toujours, regarde.
Non, trop tard, on l'a fait. J'ai plus envie.
Eh bien, merci Didouille.
Elle t'en prie.
Est-ce que, même si on a délocalisé, c'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit, mais on a délocalisé, mais est-ce que JR a réussi à suivre notre trace?
Je crois, j'ai cru voir sa voiture.
Ouais. Ah merde,
oh, le con.
On se dit, on va changer de lieu, ouais. Tout ça. Nous, on fait l'escape game, on essaie de l'échapper, mais ça marche pas. Ah, finalement, il nous poursuit, ouais. Il a réussi à déjouer nos énigmes. Et bah écoute, hein, Arnaud, je te propose de voir avec lui pour céder ta place. Pourquoi est-il si méchant, ce monsieur?
Mais pourquoi est-il si méchant? Tcha, 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 tcha.
Vous pouvez m'appeler JR.
Bonjour à toute la sympathique équipe de l'Anthropode.
Bonjour.
Je me présente hein, pour les auditeurs qui ne me connaîtraient pas, hein, Jean-Robert Frégin, mais tout le monde m'appelle JR, hein. Enchanté. Alors je tiens avant tout à remercier Monsieur Freddy, absent aujourd'hui, de la confiance qu'il m'accorde en ayant établi auprès de la gendarmerie de Forges-les-Eaux une procuration par laquelle il me donne tout pouvoir pour pouvoir chroniquer en son nom. Et tout le monde sait bien que Monsieur Freddy est un chroniqueur. S'il a provisoirement cédé son quiz à Monsieur Lulu, hein, qui lui a en fait confisqué sans lui demander son avis, hein, il m'a précieusement confié sa rubrique musicale et son coup de cœur. Ouais. Alors pour sa chronique musicale, je n'aurais évidemment pas le talent nécessaire pour les subtiles envolées lyriques empreintes de poésie de Monsieur Freddy. Hein. J'aurais pas non plus d'anecdotes à raconter quant à la rencontre que j'ai pu faire avec les membres du groupe dont je vais parler. Je n'ai partagé avec eux aucune bière chaude en 2002 sous les voûtes suintantes de liquides corporels divers de l'Emporium Gallorium, mythique bar à concert rouennais en reprenant du Corbier et du Bernard Minet à tue-tête. Puis Monsieur Freddy a oublié de m'envoyer les extraits pour vous faire écouter les 10 groupes. Les 10 groupes, Monsieur Marius, c'est pour dire les groupes dont je parle. Hein. Il n'y en a pas 10, hein, je vous rassure. C'est donc assez rapidement en fait que je passerai sur ces deux découvertes musicales. Hein, d'abord le groupe Listen and Sleep. Écoutez d'or, tout un programme, avec leur titre Boeing, hein, pas l'avion, hein, l'ennui, extrait de leur second album Open Your Ear and Cry, tend l'oreille et pleure. Et puis un groupe français électro, brancho, bobo, chiant, évidemment. Hein. Après Requin Chagrin, lors de sa dernière sélection, c'est le groupe Macron Chafouin que nous propose de découvrir Freddy avec son titre D'accord avec toi. Alors là, c'est pas bien grave si nous ne disposons pas de l'extrait. Hein. Vous allez écouter l'album de la femme et dites-vous que Freddy, grand misogyne devant l'éternel, vous dira que Macron Chafouin c'est 1000 fois mieux que la femme, même si dans les faits, l'auditeur lambda pensera que Macron Chafouin a tout piqué à la femme en moins bien.
Règlement de compte.
Je retrouve à l'instant le petit laïus que Monsieur Freddy avait préparé sur Macron Chafouin. Je cite. Macron Chafouin, c'est Nathalie, une jeune havraise en master 1 de psycho, auteur-compositeur, et Mike, un guitariste new-yorkais d'une quarantaine d'années, dont la carrière battait de l'aile outre-Atlantique et qui s'est laissé mollement sucer par elle sur les docks un soir de déprime. Ce duo magnifique a entamé pas plus tard qu'hier au Havre une grande tournée européenne de 3 dates qui les mènera jusqu'à Fécamp en passant par Étretat. Freddy m'a aussi confié son coup de cœur. Hein. 60 secondes chrono, top, c'est parti. Freddy voulait saluer l'initiative de son petit marchand de pompes funèbres favori, qui officie à Rouen, Monsieur Crève, hein, qui vend en France à des familles sans le sou des cercueils de seconde main pour financer l'achat d'urnes funéraires pour que revivent les cimetières de Mossoul. Wow. Toute ressemblance avec une librairie vintage rouennaise serait purement fortuite. Hein. Bon voilà, hein, j'espère que Freddy sera content d'avoir pu ainsi être un peu présent parmi nous. Bah, sinon, il y a quelqu'un qui est bien là aujourd'hui et qui a une sacrée actualité. Hein. Ah, monsieur Nico, petit cachotier, il retourne au Hellfest, mais cette fois sur scène et à la tête d'un nouveau groupe. Bah, monsieur Nico voulait aller encore plus loin qu'avec Wisdom, hein, en faire plus. Oui, Sodom et Gomorrah, comme il dit souvent dans son anglais approximatif. Et je peux vous annoncer en exclusivité quel est le nom de ce nouveau groupe. Ah, il n'a pas choisi ce nom au hasard. Hein.
Jamais.
Il voulait à la fois sortir de l'ombre, se mettre en avant en utilisant son prénom, et en même temps que ce nom soit comme tout bon nom de groupe de métal porteur de mort et de désolation. Le nom de ce nouveau groupe...
C'est Christophe qui m'a inspiré.
Ouais, le nom de ce nouveau groupe, Nico Létal, hein, dont le concept est ma foi fort original. Il reprend des vieux succès de la célèbre et talentueuse Nicoletta. Alors j'ai trouvé un enregistrement pirate, hein, vous pardonnerez la mauvaise qualité du son.
Salut à tous! Moi c'est Nico! Nico Létal! He's dead, the sun! When you left me! Ouais! Allez, une autre! Oh grandma! Oh fucking blue grandma!
Allez. Et voilà.
C'est dur, hein.
Monsieur Nico promeut son nouveau concept en reprenant la devise du Mélenchon de 2012. Il dit de lui qu'en matière de musique, il est, je cite, « le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas ». Beaucoup se posent des questions et peinent à trouver le candidat qui les satisfasse pleinement, d'ailleurs pour cette présidentielle. Monsieur Nico, qui comme beaucoup de monde à la veille du premier tour, jour où nous enregistrons, peine à trouver un candidat qui le satisfasse pleinement. Lui, il voulait voter Francis Zégut. Bon, quelle n'a pas été sa déception de savoir qu'il n'avait pas pu réunir les 500 signatures. Non, mais sinon, c'est certainement la période qui veut ça, mais nous sommes tous en quelque sorte habités par les fantômes d'élections précédentes. Nos deux poivrottes favorites se sont tout à l'heure lancées dans un débat présidentiel de leur cru façon Mitterrand-Giscard. Fallait entendre Madame Starlette, hein. Madame Didouille, hein, Madame Didouille, vous n'avez pas le monopole du haut le cœur, hein. Moi aussi je vomis. Moi-même, quand je suis arrivé ici, hein, en orgie dans la caravane de Marius, j'étais tellement dérangé par le bruit et l'odeur que j'ai inventé un slogan. Manger des rhums, ça en fera moins. Mais en arrivant, j'ai eu un autre choc en pensant que nous recevions Emmanuel Macron. Monsieur Nico a frappé fort, ai-je pensé. Moi, je voyais pas bien, j'étais à contre-jour. Il était là, assis, le winner, au sourire carnassier, à l'allure de gendre idéal. Hein, de même pas cadra, sémillant et toujours souriant, au propos toujours positif, mais plein de vacuité. Oh, c'est côté Brigitte, sa vieille femme, hein, toute botoxée, qui pourrait être sa mère et dont on sent qu'elle tire les ficelles dans l'ombre. Et puis Marius a allumé la lumière de la caravane, c'était Monsieur Lulu et Mme Didouille. Ah, c'est alors que, telle une Julie Gaillet barbue, je fus soudain habité par François Hollande. Moi président, l'entrepode aura des millions de poditeurs, dont Marius. Moi président, Monsieur Lulu ne posera plus que des questions de moins de 10 minutes. Vous noterez que j'ai voulu rester crédible malgré tout. Hein. Moi président, je taxerai les plus fortunés à 90% au profit du Tipeee de l'entrepode. Moi président,
putain, ça, c'est une bonne idée.
Moi président, j'imposerai l'écoute de l'entrepode dans les écoles primaires. Et fixerait le programme littéraire du bac avec les livres conseillés par Christophe. Moi, président, je nommerais le même Christophe ministre de la Santé et ferais adopter par l'Assemblée une loi à son nom visant à étendre à tout le territoire la légalisation du cannabis,
ouais,
qu'il a déjà imposé depuis plus de 40 ans chez lui. Moi, président, je demanderais à Marius de m'écrire mes discours. Oh, là-dessus, je suis pas très original. Hein. Marius œuvre déjà dans l'ombre d'un candidat à la présidentielle. Vous saviez pas. Eh ben oui, il est le nègre de Jean Lassalle. Non, écoutez bien la prochaine fois. Hein. Ça s'entend clairement dans la construction des phrases et le déroulé de la réflexion. Mais bon, même président, Saurais-je faire preuve d'assez de bravitude pour oser attaquer ceux qui ont vraiment le pouvoir dans cette pièce ? Les époux Balkany de Petit-Quevilly, à savoir Monsieur Nico et Starlet, sa Pénélope, comme il l'appelle. Allez, je n'écoute que mon courage et j'ose le dénoncer. Monsieur Nico, il se fait offrir tous ses costumes de vred par de riches amis et il a clairement créé l'entrepôt pour trouver un emploi fictif à sa femme. Oh, laisse tomber, prépare Orient, bah, tu raconteras ton quotidien de femme au foyer. Allez, les fauteuils repeints à l'acrylique, tes massages, le matelas conjugal, les produits d'entretien. Oh, t'auras rien à foutre, ils sont tellement cons nos auditeurs qu'ils y verront que du feu. Un monsieur Nico qui voulait confier la chronique littéraire à ses deux enfants de moins de 10 ans, sous prétexte qu'ils sont plutôt de brillants élèves de primaire. On a failli se retrouver avec une chronique sur Oui Oui au pays des jouets. Bon, il a fallu qu'on menace de tous démissionner pour que Christophe conserve sa chronique. Ah, période incroyable que les élections présidentielles, législatives, on parle que de ça, c'est pas fini et ça finit par nous hanter avec des questions existentielles sur l'abstention, sur le fait de devoir voter contre quand on n'est pas pour. Dommage que Raphaël Enthoven ait oublié de me signer une procuration. Bon, plus sérieusement, à l'heure où nous enregistrons, nous sommes à la veille d'une élection, source de multiples uchronies possibles que ne renierait pas le scénariste Fred Duval pour sa BD Jour J. Et vous me voyez particulièrement curieux et anxieux de connaître celle qui ne fera pas l'objet d'une fiction, mais qui sera notre réalité. Merci de votre attention.
Merci Arnaud.
Bravo, bravo.
En tout cas, seul truc, sans se prononcer trop, tant qu'il nous laisse faire nos conneries. Pour rester dans le cadre d'Anthropode, après, chacun fait ce qu'il veut dans l'isoloir.
Pas s'il faut blaguer un peu.
Merci JR. Et puis bah à notre Emmanuel Macron à nous de prendre la relais de Freddy.
Bonsoir.
Pour le quiz.
Je voulais juste revenir un petit peu, tu parlais des différentes chroniques que j'ai faites. Il y en a une sur le matelas conjugal. Marius avait un doute sur le fait que Teddy Bear reprenait les matelas, ouais, et les remboursait.
Ouais.
Voilà. Donc on a des poditeurs qui nous...
Qui suite à la chronique ont pris le matelas.
Ont acheté le matelas.
Ouais.
Ah. Comment ils s'appellent, Nico ?
Alors je les connais que par leur pseudo, c'est puisque je les avais déjà cités. Donc c'est TMDJC donc, qui fait le podcaster. Et sa compagne donc FQPEH, donc c'est des pseudos Twitter, qui nous ont dit que justement suite à ta chronique, ça les avait fait franchir le cap, quoi.
Mais qu'ils n'avaient pas été satisfaits.
Et ils n'ont pas été satisfaits parce que pour eux, ça correspondait pas à leur confort, etc. Mmh. Et donc ils les ont contactés et ils ont convenu d'un échange. Et alors je les ai pas eu depuis.
Ça a coûté 50 000 balles.
Non, a priori c'était échange. C'est comme vous
ils
voulez.
Ont pris
on prend rendez-vous quand ça vous arrange.
Le retrait du matelas et ils leur ont dit qu'ils allaient les rembourser.
C'était le 8 avril, je crois.
Le 8 avril.
Et j'ai oublié de les recontacter, en fait.
Voilà.
Plus de nouvelles, plus rien, en fait.
En fait, ils se sont pas reconnectés à Twitter depuis.
Il ne vous convient pas, le matelas. Attends, on va arranger ça. Depuis, plus de nouvelles.
Non, mais en tout cas, l'échange s'est très bien passé. A priori,
oui, bah, tu m'étonnes. Poum, poum.
Et ce qu'elle me disait, c'est dès que nous aurons enlevé le matelas, nous procéderons au remboursement intégral. Et après, c'est réutilisé. On peut aller sur le site où on voit.
On va bien voir la suite quand même. Qui
mais on vous la donnera.
Donc, n'hésite pas, FQPEH.
Passionnant.
Donc, Aline, je crois, son vrai prénom, de nous faire part de ton retour d'échange de.
Dis donc, c'est que service après chercher à boire.
Ready? Ludo?
Are you ready?
Alors.
Il y a
jungle.
Oui, il y a un jungle ou il y a pas de jungle?
Et puis voilà.
Super. Bon ben moi je prends la place de Freddy exceptionnellement pour aujourd'hui. Et Freddy, voilà, si tu de là-haut, j'espère que tu nous entends.
Paix à son âme.
Paix à son âme. Et en fait, donc le quiz va avoir une petite couleur un peu particulière puisque effectivement nous sommes donc en 2017. Ce sont les élections présidentielles. Et à cette occasion, à notre façon, nous allons célébrer ce grand moment de la vie démocratique française. Donc ça va être l'occasion un petit peu de faire un peu d'histoire. Mais vous allez voir, c'est de l'histoire sympa. Puisqu'en fait, qui dit élection présidentielle
en mode Ludo,
exactement, dit président de la République. Et donc, le quiz va pas mal tourner autour de ça. Mais je vous rassure, pas besoin d'avoir une culture de taré
pour, je suis rassurée,
pour répondre aux questions débiles que je vais vous soumettre dès à présent. Enfin, débile, elles sont
pas
débiles.
Donc, il faut être un peu con, débile ?
Non, pas du tout. Il faut juste, voilà, surtout poser les questions. Et puis, ça va être de la déduction, ça va être de la recherche. On va se marrer. C'est parti, mon kiki.
Ça va être trop fou.
Et donc, j'ai donc 10 questions. Et 10 questions qui vont correspondre à 10 présidents. Oh. Et donc, je vais vous donner les noms à chaque fois. Il s'agit pas
de. Il y a une question pour un auditeur ou pas ?
On peut en réserver.
Mais c'est, pas, c'est le quiz, là ?
On peut en réserver. D'accord.
T'étais où, Marius ? Oui.
On peut en réserver une, ça va être la dixième à la limite pour le comment dirais-je notre poditeur. Nos poditeurs.
Attention.
Alors je vais commencer par Louis-Napoléon Bonaparte, qui a été président de la République de 1848
le bras droit.
À 1852. Ça va être en plus l'occasion pour vous de vous instruire à blinde. Vous en avez besoin. Mmh. Et donc, Louis-Napoléon Bonaparte a quelques spécificités. Mmh. Et ben, j'aimerais bien que vous me trouviez laquelle,
physique.
Voire lesquelles. C'est-à-dire que j'en accepterai plusieurs si jamais vous avez des idées différentes.
Il n'a jamais couché avec sa femme.
Non.
Il n'a pas été élu.
Il poil dans le nez beaucoup.
Non.
On a dit de lui qu'il était stérile.
Pas C'est physique
tout. Pas du tout.
Il était hypochondriaque.
Non, alors on va élever. Alors,
il aime pas certaines couleurs.
Alors tout de suite, je vais vous calmer.
Hein,
vous allez me faire le plaisir d'élever un peu le débat, quand même, le niveau du débat. Hein, parce que
c'est un grand guerrier. C'était un grand
guerrier.
C'est
une question politique, effectivement.
Politique, donc il n'a pas été élu. Non élu.
Il a été élu.
Ah, il avait qu'une couille.
Mais pas au suffrage universel. Ben, avec un suffrage.
Il a été élu au suffrage universel.
Restreint.
Restreint, effectivement. Il a été élu au suffrage universel masculin. Ça, c'était de l'époque, puisque je vous rappelle 1848. Donc, effectivement.
Ah, bon vieux temps.
Mais donc effectivement, ça tourne autour de cette idée-là. Il a été élu au suffrage universel.
Ouais. Mais que personne. Il a payé ses électeurs.
Non, mais il y a une spécificité par rapport à ça, justement.
C'était la première fois.
C'était la première fois. Bon.
Ah,
c'était le premier président élu au suffrage universel en France. Bravo, mon
professeur. Il a une autre particularité.
Oui, alors je vais vous les donner. Du coup, il a été à la fois également le plus jeune président français, puisqu'il avait 40 ans. Ça rappellera Emmanuel Macron, si jamais il devait être élu. Et puis surtout, il a été à la fois l'unique président de la Seconde République. Il n'y en a pas eu d'autres. Il a été à la fois le premier chef d'État élu au suffrage universel, mais il a été également le dernier monarque français, puisque ce gars-là s'est autoproclamé empereur en se faisant appeler Napoléon III, avec le Second Empire.
Attends, voilà.
Je pense que je vais le faire aussi.
Là, c'est bien vu. On passe à la deuxième question, et là, ça va concerner un certain Paul Deschanel. Ouais. Paul Deschanel qui a été président de la République, alors attention, entre 1921 et 1922. Alors, ce fameux Paul Deschanel a été très célèbre pour un incident qui a beaucoup fait parler de lui. Quel était cet incident ?
Sa mort, non ? Au moment de sa mort ?
Ça n'est pas sa mort.
C'est pas sa mort.
Son mariage.
Ça n'est pas son mariage.
Sa naissance.
Un fait politique.
Ça n'est pas un fait politique, mais c'est un fait.
Oui.
Non, il est arrivé quelque chose à cet homme.
Elle n'avait qu'une couille.
On l'a surpris avec une pute.
Pas du tout.
Avec deux putes.
Pas du tout.
C'était un premier transsexuel, non ? Je sais pas.
Non.
Il était noir.
Il a volé de l'argent.
C'est le premier qui a piqué dans les caisses.
C'est le premier qui a pas piqué.
Ouais, il était honnête.
Non, il a pas volé. Non, je parle d'un fait. Il est arrivé quelque chose brave homme.
Il est arrivé quelque
chose. C'est ce qui a causé sa perte ou pas ?
Il a été victime du premier attentat politique.
Mais oui, c'est. Il n'a été président que quelques jours.
C'est ça ? Il a été victime du premier attentat politique ou du premier essayé de l'assassiner. Assassinat politique.
Non. Mais il a été victime d'un accident. Mais quel type d'accident ?
Vasculaire.
C'est ça qui l'a tué ?
AVC.
Il n'est pas mort. Non, il n'en est pas mort.
Si
il a continué d'être président après cet accident.
Oui.
Un accident de voiture.
Il est tombé dans l'hémicycle.
Ce n'est pas un accident de voiture.
Un accident d'avion.
Un accident de calèche.
De vélo.
De cheval.
De vélo.
Non. Dans l'hémicycle.
De trottinette.
Non.
De la skateboard.
Vous n'êtes pas loin. C'est un véhicule, en fait.
De motocyclette.
Un accident de...
De vélocyclette.
De vélocipède.
Tricycle.
Vélocipède.
Non.
Tricycle.
De...
Non.
Est-ce qu'il y a des roues ? Est-ce qu'il y a des roues sur ce
motocyclette ?
De cheval ?
Non.
Il y a des roues.
Il y a des roues.
Un cheval à bascule. Il y a des roues.
Non, il y a des roues.
C'est pas le grand vélo avec la grande roue là ?
Non.
De patin roulette.
Non.
C'est quelle année ? Dirigeable.
Avec des roues.
Un dirigeable.
Ah oui, pour quand il atterrit, tu sais.
Non. C'est un moyen de transport terrestre.
Vélo.
Ah, un train.
Un train, bonne réponse de,
de
Marius. Je vais vous en donner un petit peu plus.
Tout le monde le savait.
Ah,
Paul Deschanel est tombé du wagon en cours d'un voyage en train. alors qu'il se dirigeait vers Montbrison. Il, ouais, est, il s'est penché par la fenêtre, il a basculé.
Oui. Ça, c'est ce qu'il dit.
On l'a un peu poussé.
Écoutez la suite. Vêtu de son pyjama et ensanglanté, il s'est présenté comme le président de la République, puisque le train roulait à 50 km/h. Il était en zone de travaux.
Ce n'était pas le TGV non plus, quoi.
Il faut savoir qu'il s'est présenté à un cheminot. Et en se disant, bah, je suis le président de la République, il était en pyjama, à moitié en sang. Le mec s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce farfelu ? Il l'a pris avec lui, il l'a emmené chez le garde-barrière, qu'il l'a soigné, qu'il l'a mis au lit. Et pendant ce temps-là, le train a continué. Il était tout seul dans son wagon, il n'y avait personne dans son compartiment. Les mecs, ils sont arrivés à 7h du mat en gare de Montbrison. Et le président de la République avait disparu. Personne ne sait ce qu'il était passé président de la République.
Il n'est pas mort, alors.
J'ai jamais dit qu'il
était
mort.
On a dit qu'il n'était pas mort.
J'ai dit qu'il n'était pas mort.
Enfin, maintenant, oui, il est mort depuis, mais.
Et en fait, sa chute aurait été due à une forme de somnambulisme. Et voilà. Et au système particulier d'ouverture des fenêtres à guillotine de l'époque. Alors, pourquoi ça a été un incident assez fort à l'époque? C'est que, il a souvent été qualifié de président fou. C'est-à-dire que c'est un type qui commençait à avoir des signes mentaux un peu
légers.
Par exemple, cet épisode a beaucoup été exagéré parce que notamment, il avait des petits problèmes. C'est-à-dire, par exemple, il avait un discours et quand les mecs l'applaudissaient, notamment, il y a eu un célèbre discours où il se mit à refaire le discours. Il a été aussi par ses adversaires, on l'a dit que lui qu'il allait se baigner dans le bassin au canard de Palais de l'Elysée, qu'il se baladait à moitié à poil. Enfin bref, qu'il signait Napoléon vers Saint-Jotorix à la fin sur ses trucs.
Attaqué quand même, voilà, le gars.
Voilà, enfin bref, ce genre de petites choses-là. Alors beaucoup disent que en fait c'est surtout ses adversaires qui ont exagéré ça, mais l'incident du train a fini de le tourner en ridicule complètement. Et bon, peu de temps après, de toute façon, il a. Je vais passer à un autre président. Alors celle-là, elle est assez sympathique.
Elle est pas piquée des
Adolphe Thiers. Adolphe Thiers a été président. Adolphe Thiers a été président de la République.
C'est pas Hitler, c'est
Adolphe Thiers.
Adolphe Thiers de 1871 à 1873.
C'est pareil, c'est pas long, hein.
Alors celui-là.
De quoi?
Non, c'est pas long non plus.
71 à 73.
1800.
Alors, ce président a eu une vie amoureuse qui a fait couler beaucoup d'encre dans les journaux en son temps. Mais de quoi s'agissait-il exactement?
Il était homosexuel?
Il n'était pas homosexuel, au contraire.
Il était transsexuel?
Il n'était pas transsexuel. Non.
Il avait qu'une couille.
Il était libertin?
Non, en fait, il n'était pas libertin, mais il avait une...
Il était sadomasochiste.
Il vivait avec deux femmes.
Il vivait avec deux femmes. Mais j'en veux un peu plus.
C'est bigame.
T'en veux toujours plus, toi.
La femme du vice-président.
Non, c'est pas ça. Mais
sa sœur et sa femme et sa mère.
Alors, refais-la-moi, celle-là.
Sa sœur.
Il vivait avec deux femmes.
Oui.
Deux sœurs.
Avec sa femme et la mère de sa femme.
Sa femme et la sœur de sa femme.
Il vivait avec sa femme et la mère de sa femme.
Non.
Exactement. Et mieux que ça.
Et mieux que ça.
Écoute, c'est toi, Nico. Nickel.
C'est Nico. Le point à Nico. Allez, écoutez bien. En fait, il avait une liaison avec donc Sophie. Sophie, c'était sa secrétaire. Mais également avec Élise, la fille de la secrétaire. Mais c'était pas sa fille, en fait. C'était une fille d'une liaison précédente. Et puis, en fait, il va se marier avec la fille.
Fille, c'est pas sa fille.
Mais il va se marier avec sa fille, avec la fille de la secrétaire, tout en continuant
à avoir la liaison avec
à filer le parfait amour avec la mère, qui vit d'ailleurs au foyer avec eux. D'accord. Et puis. Et bah, tout ce petit trio va vivre tranquillement jusqu'à la mort de la mère. Bah, qu'à cela ne tienne. Sitôt disparue la mère.
T'as pas de cousine ?
Sitôt disparue, elle est immédiatement remplacée par l'autre fille, Félicie, qui est la sœur.
Félicie aussi.
Et les deux femmes du président sont surnommées par les journaux à l'époque les pommes de Thiers. Voilà, c'était.
Et ben.
Et en fait, il a
quelle
été,
anecdote
voilà.
incroyable.
Ah, non, c'est pas.
C'est pas Freddy qui nous apprend des choses comme ça.
Ah oui. c'est pas les questionnaires.
En même temps, j'ai dit la sœur et sa mère. Je pourrais avoir un demi-point quand même, je pense. Hein.
Ou alors
le point entier. Attends, la dernière fois que je pouvais avoir un demi-point, on me l'a refusé.
Je t'autoriserais bien un point parce qu'en fait, elle a fait un petit package.
C'est un peu qu'il a donné.
Oui, mais non.
Mais il me préfère à toi, c'est tout. Ah dis.
Mais la sœur de qui, non?
Vous voulez des bugnes? Vous voulez des bugnes?
Ah là, j'ai de la. C'est quoi des bignes là,
bon. Non mais c'est pas ça.
C'est quoi des bignes?
Bon alors en fait on va rester là. Voilà, je sens bien.
C'est pas grave. Non mais laisse.
On passe à Félix Faure. Alors là pour le coup.
Ah oui. Bah lui il est mort dans une prostituée.
Dans une prostituée.
Oui.
Il n'est pas mort dans une.
Dans le lit avec une prostituée.
Oui.
Il est mort au salon de l'Élysée.
Alors attendez. Parce que là évidemment je vois qu'il y en a qui sont chauds. Donc je veux une précision de nature technique. Il est mort dans les salons de l'Élysée.
D'une rupture d'anévrisme.
Alors non, mais non, la rupture, la technique, c'est que je veux dire en fait, en gros,
c'est une prostituée qui l'a signalé.
Ça n'était pas une prostituée, c'était une maîtresse.
Ah pardon.
Ah bah je t'ai perçu. Dans les salons de l'Élysée et en fait, que pratiquait la prostituée au moment
où une fellation,
dans la bouche. Bah oui. Une fellation dans le cul. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Alors, il est mort la queue dans la bouche.
Alors, il était bien membré, hein.
Alors,
très souple.
Alors.
Mais beurre pas sa bouche, hein.
Est-ce qu'il n'avait qu'une seule couille?
Ça va être difficile d'attribuer le point là, je vois pas très bien là, parce que c'est, les réponses sont venues d'un peu partout.
Alors, quoi,
Nico était quand même
coup,
plutôt.
Il est mort en se faisant pomper.
Il
c'est
en
ça
a déjà un.
Je vais.
Non, j'ai pas dû dire moi.
Donc, la fellation, qui a dit la fellation?
C'est les filles. Bah, je crois que je l'ai dit, mais non,
bah,
mais je
peux pas. Aussi.
Oui, ça a été dit.
Ah, bah, j'ai déjà eu un point.
Je propose le point à Didou.
Donc, du coup, il est mort pompé.
Alors, en fait, effectivement, il n'avait quand même pas. Elle n'avait pas la bite dans la bouche pour une raison toute simple.
Oh,
c'est qu'elle a pu.
J'aime pas quand tu parles comme ça.
C'est qu'elle a pu appeler au secours. Mais.
Excusez-moi. J'ai voulu avaler le micro, je suis désolé.
Vous allez me dire, mais comment c'est la question, c'est pourquoi est-ce qu'elle a appelé au secours? Pourquoi est-ce que finalement elle tout simplement elle a pas signalé le truc, et donc pourquoi le type il a été chopé comme tel? Et ben je vais vous le dire pourquoi.
Bah dis-nous le.
Tout simplement, c'est qu'en fait effectivement il est mort des suites d'une pipe taillée par une de ses nombreuses maîtresses. Ce qui s'est passé, c'est que des collaborateurs ont entendu des appels au secours qui venaient d'un bureau. Ils se sont donc précipités dans le bureau. Et là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé le gars à demi-mort, quoi. Et la fameuse maîtresse, il avait chopé les cheveux de sa maîtresse, une flamboyante rouquine qui avait une chevelure magnifique.
Elle a fait croire qu'il s'était fait violer, non?
Il avait chopé les cheveux.
Il lâchait plus, quoi.
Et il ne l'a lâché plus. C'est-à-dire que la main, c'était complètement raidie. Ils ont été obligés de couper les cheveux.
La raideur cadavéreuse était déjà.
De couper les cheveux. Non.
Était-il encore en érection?
Il était pas. On peut supposer qu'elle a dégagé le membre de la bouche pour permettre de crier au secours, ou alors effectivement, elle était. La chose qu'elle a pu.
Peut-être.
En tout cas, toujours est-il qu'ils ont été obligés de couper au ciseau les cheveux pour la
libérer. J'ai peur.
Pour la libérer. Et évidemment, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont annoncé officiellement que Félix Faure était mort d'une hémorragie cérébrale.
Ce qui est certainement vrai.
Oui. Ce qui est, voilà, mais enfin, bon, officieusement, effectivement, je dirais.
Après, on ne dit pas dans quelles circonstances, mais.
On va passer à Sadi Carnot. Là, vous voyez, je vous fais dans le vieux, là.
Sadi Carnot.
Sadi Carnot, qui a été président de 1800.
Sadi Carnot.
Sadi Carnot.
Qu'on en a
Carnot.
Aussi, nous.
On a Sadi Carnot.
Je connais pas. Non,
chaque époque, il y en a.
Alors, Sadi Carnot. Alors, Sadi Carnot, qui a été président de 1887 à 1894. Oh. Alors, Sadi Carnot a une particularité. Il a été le premier en France. Mais il a été le premier.
Arabe.
Non.
Mulâtre.
Non.
Noir.
Non.
La mère. Noir?
Non.
Mais
attends, tu dis il a été le premier en France, premier président en France.
Premier quoi?
Il a été le premier président en France.
Un premier président. D'accord. Premier président.
À être
président quoi? Avec une seule couille.
Célibataire?
Non.
Homosexuel?
Non.
Transsexuel?
Non. Ça, c'est... Alors, ça n'est pas quelque chose.
Vous avez quand même quelque chose qui vous turlupine.
Ça n'est pas quelque chose qui est propre à lui interne, je dirais.
Ah.
C'est ça.
Et il ne se lavait pas.
Il y a quelque chose évidemment, mais ça n'est pas une cause interne.
C'est pas une cause. Le j'ai pas compris ce que tu expliques là.
Non, c'était Napoléon.
Ce que je veux dire, c'est que par exemple, être mulâtre, être.
Mulâtre, c'est quoi du coup alors, lui?
Intrinsèque, tu veux dire.
Intrinsèque, voilà.
Là,
c'est
là,
pas
vous
une cause.
Parler une langue que je comprends pas.
Il a été le premier président à qui il est arrivé quelque
qui
chose.
Chantait.
Mais quoi?
À qui il est arrivé quelque
ouais.
chose.
Mais quoi?
Ah, qui
politique.
Premier victime d'un attentat.
D'un assassinat, il s'est fait tuer.
Premier.
Bonne réponse de
ça. C'est ce que je viens de dire. Mais non, premier, c'est moi qui viens de le dire.
Ah bah, j'ai entendu Sarlette, moi.
Je viens de le dire. Premier victime. Premier président d'un attentat.
Ça veut pas dire qu'il s'est fait tuer.
Bah si.
Bah non.
Non. Moi, je retiens. Okay. Je retiens. Il a été. Alors, attentat, il y en a
okay,
eu. Il a été. En tout cas, il a été. Il était le premier président qui était. Qui en est mort.
Pas aux manouches.
Il est le premier président de la République. Il est premier président de la République française à avoir été assassiné.
Ouais. Pas un attentat, ça, non.
Mais un attentat ne veut pas dire que tu es assassiné.
Non, c'est pas grave.
Tu es victime d'un attentat, mais tu n'es pas mort.
Prends le point, de toute
façon. Starlet, prends le point, de toute façon, c'est elle que je préfère. Donc, le premier président de la République.
Oh, mais 10 direct. Hein.
Donc, le premier président, effectivement, de la République, assassiné le 25 juin 1994 d'un coup de poignard par un anarchiste italien, Sante Geronimo Casario. Son assassinat, d'ailleurs, fait d'ailleurs adopter la dernière des lois scélérates, dites lois scélérates contre les anarchistes, qui empêchait les anarchistes de communiquer
c'est
entre eux.
Attentat.
Et cette loi a été abolie en 1992. Voilà, vous voyez.
C'était une tuerie et pas un attentat.
Il y a eu d'autres attentats, en fait. Par exemple, Louis-Napoléon Bonaparte était victime d'un attentat, mais il n'en est pas mort. Voilà,
ta
gueule.
Attends, ta passe, vas-y, va lire tes trucs internet, pas jusqu'à la
fin. On va passer à la quatrième question. La sixième, pardon.
Ah oui, Paul, quatrième,
Paul Doumer. Alors, qui connaît Paul Doumer?
Ah bah moi, j'ai fait une BO sur lui. Hein.
Connaissez-vous Paul Doumer qui
BO.
A été... Paul Doumer qui a été président de.
Enfin, une.
De quoi?
On a pris sa vie d'une.
Une biographie, quoi.
Une bio.
Et bah donc, t'as peut-être fait la musique du film qui parle de Paul Doumer.
Du film de Paul Doumer.
Et bien, Paul Doumer, vous allez voir, c'était Paul Merdouche, président quoi. De 1931 à 1932. Oh, c'était très très court.
Aussi,
et bien, dites donc là. Hein, bah, lui
sa
encore,
biographie, elle a pas été
violente. Lui aussi. Bah, elle est courte, et vous allez voir, lui aussi, il a une spécificité. Et c'est quoi sa spécificité à ce gars-là, à votre avis?
Il a démissionné.
Couille.
Non.
Non, il est décédé.
Ça oui, il est mort. Ça oui.
Non, mais il est décédé pendant son.
C'est ça qui a mis fin à son.
C'est ça qui a mis fin à son mandat.
Non, mais décédé, c'est.
Il a démissionné.
Il est pas.
Il a été destitué.
Non.
Il a démissionné.
Alors non. Et alors c'est, de toute façon, clairement, le gars, il est décédé. Et en plus de ça, ce qui est drôle, c'est qu'il est le deuxième président de la République française à avoir été assassiné. Mais c'est pas pour ça que je pose la question. C'est pour une autre raison.
Il a remplacé le président,
Non.
Attends, reprends.
Ma question, c'est quelle est la spécificité de ce gars-là, qui a par ailleurs été assassiné également, mais c'est
on s'en fout. Par contre, franchement, les questions de Freddy étaient beaucoup plus claires.
Moi, j'aime bien parce qu'il y a un lien dans les questions de Ludo.
Bah oui.
Moi, je vais voter pour que ce soit toujours Ludo.
Ça marche.
Évidemment, avec
moi aussi. On va faire la main levée tout de suite.
Mais franchement,
il est pas là.
C'est pas compliqué.
Il était communiste.
Non. Par contre, c'est une cause intrinsèque pour le coup.
Elle était mulâtre.
Elle n'était pas mulâtre.
Peut me dire ce que ça veut dire.
Par contre, il venait d'un territoire d'outre-mer.
Il avait qu'une testicule.
Non, il avait bien les deux.
Il était manchot.
Je crois.
Il était
métis.
Non, pourquoi vous. Non, il est.
Il était bègue.
Alors, ok.
Redonne la question autrement.
Stérile.
Je vais vous donner un autre truc. En fait.
Essaye de faire différemment.
D'accord, on va le faire différemment.
Pas pareil, quoi.
Ce gars-là était président. Il a été candidat, ok.
Ouais.
Et en fait, en tant que candidat, il était, par rapport aux autres candidats, il avait une.
Il n'était pas majeur. Il était très jeune. C'était le plus vieux,
bonne réponse de Bidouille. Il est le plus vieux candidat à entrer à l'Élysée. Il avait 74 ans à l'époque. Je parle pas de deuxième mandat, je parle bien en tant que. Voilà.
C'est pour ça qu'il est mort
74
aussitôt
ans.
Non,
oui, alors évidemment, le bravo ne va pas faire de vieux os, puisque le pauvre gars, il a été assassiné moins d'un an après son investiture.
Pourquoi?
Par un jeune émigré russe, Gorgoulov. En fait, il s'est fait
abattre. Les émigrés.
Bah, en fait.
toujours au même point, hein, tu sais.
Alors, il faut savoir, c'est assez drôle. Le gars, donc, était en train d'inaugurer une exposition dans un hôtel. Il était en train de causer, là, c'était une exposition sur les écrivains. Et puis il causait avec un écrivain et le type est arrivé, il lui a collé deux balles dans la tête.
Allez, papa, allez, bisous, bonne
et le
soirée.
Mec, il a
allez,
fait...
bisous.
Et la dernière, exactement. Et la dernière phrase du président, c'était de dire tout de même. Et poum, il est tombé, il était mort. Rien de mort. Voilà, enfin, rien de mort. Il est mort le lendemain. C'est moche, c'est triste, mais voilà. C'est pas grave. Hop. On va reparler de Paul Doumer. Bah oui, tiens, Paul Doumer revient. Alors, parce que Paul Doumer, en fait, Paul Doumer,
il se parle tout seul. Il s'amuse tout seul.
Paul Doumer,
Paul
Doumer, c'était pas un marrant, en fait. Peut-être pour ça qu'il s'est fait assassiner. Ah. Il y avait d'ailleurs quelque chose qu'il considérait comme une anomalie.
Il avait qu'une seule couille.
L'homosexualité.
Ah, alors, c'était pas l'homosexualité qu'il considérait comme une anomalie, mais non. Mais c'était pas ça. C'est vraiment quelque chose.
D'être roux.
Non, c'est quelque chose de
très... C'est une anomalie.
C'est quelque chose de très commun en réalité. Hein? Il y avait quelque chose.
Gaucher.
Un truc qui est considéré comme une anomalie. Bête. Alors, ça n'est pas une caractéristique corporelle, physique.
Une caractéristique Marius. Intellectuelle.
Non, c'est. C'est
un comportement sociétal.
C'est un comportement sociétal, on va dire. Oui, comportement. C'est quelque chose de sociétal.
Il ne supportait pas qu'on s'embrasse.
Non, même si effectivement il était assez vieille
puritain,
France,
ouais.
Mais non. Mais c'était quelque chose de sociétal. Il y avait quelque chose qui a été mis en place dans la société, qui était quelque chose qui considérait comme.
Qui l'a dérangé. Le vote des femmes. Non.
Pas le vote des femmes. Non. C'était pas encore. C'était pas encore à l'époque.
L'abolition de l'esclavage.
Non.
C'était en quelle année, Paul Doumer?
Alors, Paul Doumer, 1931-1932. Alors, franchement,
c'est par rapport aux femmes.
Je sais pas, il était contre le mariage, non?
Il était pas contre le mariage.
Contre le divorce.
Contre le divorce.
Contre le travail des femmes.
Non.
Ah bah non.
Alors, il y a une notion par rapport au travail.
Il voulait pas que les femmes travaillent. Il était contre le travail des femmes.
Alors il n'était pas contre.
Les congés payés.
Il était contre les congés, bravo.
Non, mais elle déchire.
Elle déchire à mort, la star.
C'est les filles qui explosent tout.
Exactement, il considérait comme une anomalie les congés. Et d'ailleurs, lui, pendant tout son mandat, il n'a pas pris un seul jour de repos durant tout son mandat.
Il en est mort.
Il se levait tous les jours à 5 heures, travaillait le week-end plus la semaine, jusqu'à de 16 à 18 heures par jour. Et pour ses repas, un blanc de poulet, un verre d'eau et au lit. Un vrai débauché, ce mec-là. Bon,
il devait pas être marrant.
C'était pas un marrant.
Il paraît qu'il buvait de l'orangina, quoi.
Est-ce que c'est pour cette raison que donc, le fameux Paul Gorgulov l'a assassiné? Je non.
Ouais, ouais. Pourquoi tu dis Paul? Paul, c'est pour les femmes. Depuis le début,
mais
du
il vient
Paul. Paul Goulet,
ah, Paul, parce qu'il vient Paul. D'une région de la Russie où on dit Paul.
Exactement. Paul Nord. On va passer à la huitième question et on va arriver à Georges Pompidou. Alors là, on arrive sur une zone un peu plus que vous connaissez déjà un peu mieux. Paul Pompidou, qui était président de 69 à 74. Alors, Georges Pompidou a un point commun avec Emmanuel Macron. Lequel?
Sa terre de naissance. Il vient de la même région.
Non.
Et avec Emmanuel Macron?
Avec Emmanuel Macron. Ils ont un point commun.
Il n'a jamais été élu.
C'est notre projet! Non.
Il a épousé une femme plus vieille que lui.
Non. En tout cas, si c'est ça, je ne suis pas.
Il n'a jamais été élu. Il n'a jamais eu de mandat avant d'être président. C'est ce que je voulais dire.
Bah, il a été ministre.
Je n'en sais rien.
Ils ont été ministres tous les deux.
C'est pas
non,
en tout cas.
Non,
le...
il y en a eu d'autres.
Non, c'est pas ça, il m'a dit lui.
Ils ont un lien de parenté.
Non.
C'est quelque chose lié à leur fonction ou c'est quelque chose de personnel?
Qu'est-ce que tu entends par fonction?
Est-ce que c'est le fait, justement, enfin, dans.
Politique.
Voilà, politique.
Ils ont tous les deux travaillé dans les banques et à Rothschild.
À Rothschild. Oh, bâtard.
Excellent, excellente réponse de Nico.
Putain, mais t'es tous hyper les
deux,
mal poli, quoi.
Tous les deux ont travaillé à la banque Rothschild. Mieux que ça, Pompidou, avant d'être président, a même dirigé cette banque.
Quand tu dis Pompidou, j'ai l'impression d'entendre Pompidou.
Georges Pompidou devient directeur de cabinet de Charles de Gaulle en 58. Il avait travaillé chez Rothschild avant. L'année suivante, De Gaulle lui propose le ministère des Finances.
Arnaud, t'es loin.
Et Pompidou a préféré retourner chez Rothschild et attendre le seul rôle qu'il jugeait désormais à sa mesure, Premier ministre, qu'il deviendra de 62 à 68 avant son élection en tant que président. Voilà. Eh bien, on va passer au suivant, comme ça, pour le fun. Valéry Giscard d'Estaing.
N'oublie pas d'en garder un pour les auditeurs.
Au revoir.
Est-ce qu'il y aura Sarkozy?
Il n'y aura pas Sarkozy.
Oh merde. Non.
Pourquoi?
C'est ton
parce que j'ai mis 10 questions.
Parce que je suis un spécialiste.
Valéry Giscard d'Estaing, président de 74 à 81. Alors, Valéry Giscard d'Estaing, vous le savez, a été très très connu comme président pour son approche très en rupture des codes traditionnels. Alors, en vigueur, donc, il s'est fait prendre en photo en costume de ville, à la place du costume en queue de pie.
Il allait dîner chez les gens.
Voilà, il allait dîner chez les gens. Il a fait son.
Il allait tailler quoi, le gaillard?
Il est allé à pied à l'Elysée. Au lieu d'y aller en voiture comme l'ont fait ses prédécesseurs, ce genre de choses, il a descendu à pied les Champs-Élysées pour honorer le soldat inconnu. Bref, l'IV, je vous passe aussi, hein, c'est l'ORTF, l'IVG, enfin bref, la mise en place du divorce par consentement mutuel, plein de.
Enfin, l'IVG, c'est.
Non, mais c'est sous son septennat. C'est comme ça que ça s'est passé. Bref, en fait, un septennat, en tout cas, avec des mesures assez envisagées à l'époque comme très modernes et innovantes. Mais. Valéry Giscard d'Estaing est également connu pour un hobby. Spécifique.
L'accordéon, ouais, mince.
La chasse à cour.
Mais VGE est également connu pour un hobby spécifique qui lui a valu d'être cité dans le livre des records, le Roland Ward. Quel est ce hobby?
Donc c'est pas ce qu'on a dit alors.
Un hobby qui effectivement entre un peu en rupture par rapport à tout ce que je viens de vous citer.
Les Tours Eiffel en allumette.
Bilbo.
Bilbo le Hobbit.
Non, mais allez-y parce que j'ai
le toilettage pour chien.
J'ai volontairement pas écouté. J'ai volontairement pas écouté.
La chasse à cour.
L'accordéon.
Je voulais finir.
L'accordéon alors.
Il a joué le plus longtemps d'accordéon.
La chasse à cour.
Alors, ça n'est la chasse à cour, mais c'est pas que la chasse. Il y a quelque chose qui l'émet en particulier.
Le corps de chasse.
Dans la chasse, en fait, oui.
Dans la chasse.
Rabatteur.
La musique.
Il était dresseur de chiens et.
Non, mais vous, en fait, le Arnaud, il est tout presque. Si vous trouvez, ouais, c'est quasiment un point pour Arnaud, mais j'aurais aimé une petite précision. Mais en fait, c'est bien la chasse.
La plus longue
c'est lui
chasse.
Qui a tué le plus.
La plus longue chasse à cour.
La plus belle chasse à cour, le plus beau résultat de chasse à cour.
C'est pas la chasse à cour, c'est la chasse tout court. Mais.
comment
vous la trouvez celle-là? Elle est bonne. Hein.
Et il a tué le plus d'animaux.
C'est ce que disait en fait Arnaud. D'accord. Effectivement, VGE est également connu donc pour ce hobby spécifique. Donc c'est la chasse. Grand amateur de chasse, VGE a donc participé aux chasses présidentielles, chasse à cour effectivement du général de Gaulle. Mais également, il a préparé de très nombreux safaris. Et des safaris en Afrique,
oui,
ailleurs.
Kassad,
les lions Mozambique, les ours polaires, en Sibérie.
Ouais,
et il est donc cité dans le Roland Ward, livre des records des grands chasseurs. On estime qu'il a tué une cinquantaine d'éléphants. Et d'ailleurs, en 77, sur ce thème, un chanteur qui s'appelait Gilbert Lafaille a composé une chanson satirique sur lui qui s'appelait Le président et l'éléphant.
Qui a bien marché.
Et qui avait très bien marché. qui avait marché à l'époque, effectivement, que je suis même allé écouter. Et qui était une chanson qui est assez, assez terrible. Donc voilà, c'est
un peu les animaux morts de Stupéflip.
C'est un peu les animaux morts de Stupéflip.
Et c'est le premier point pour Arnaud.
Je me remets.
Termine par ma dernière question.
Ah, c'est pour l'auditeur.
Qui est pour l'auditeur.
Et nous répondrons après. Vas-y. Pose-la, nous tairons.
Voilà, vous êtes prêts? Quel président, et cette fois-ci je ne cite pas le président, quel président invité en Angleterre pour un sommet franco-britannique, a sorti à son hôte.
C'est, je sais.
La cuisine anglaise au début, bah oui, on croit que c'est de la merde, et après, on regrette que ça n'en soit pas. Ah mais ben, voilà, voilà, c'était le, c'était le
merci.
Spécial président.
Alors, merci. Le cadeau pour les auditeurs, c'est quoi?
C'est le bouquin de Starlet.
Voilà, je vous offre ma nouvelle Bible, Les vrais secrets de grand-mère. Voilà, on va le prendre je l'ai pris en photo, je l'ai mis d'ailleurs sur Facebook. Il y a plein de petites astuces donc pour tout recycler, pour entretenir la maison et le linge, pour jardiner sans pesticides, pour fabriquer des produits écolo, pour bricoler. Facile.
Waouh.
Je pense que ça va intéresser Mathieu Donny.
De toute façon, il joue à chaque fois lui. Donc,
on va finir par croire qu'on a
Isabelle.
On va finir par croire qu'on a deux auditeurs.
De toute façon, on a Mathieu et puis la sœur d'Arnaud.
Et Isabelle,
Mathieu,
Isabelle. Ouais, mais Mathieu,
et
Isabelle, oui, c'est.
Et puis Jean,
Renaud
et Amalric.
Et ben justement, en fait, vous connaître tous
et Benoît,
les auditeurs.
Et Bertrand. Et Bruno qui nous a. Mais oui.
Et Gérard. Salut Gérard.
Et toi, Pascal, qu'envisageait simplement d'être heureux dans la vie.
Et toi, Roger. Et toi, Polo. Et toi.
C'est le bon moment pour justement vous inciter à jouer parce qu'effectivement, on rigole, mais c'est toujours les mêmes qui osent jouer, mais vous pouvez tous jouer à ce concours. Donc, on vous laisse jusqu'à
trois mois parce qu'à chaque fois, il n'y a pas de réponse.
Si, tu rigoles.
Tu réponds tout le temps.
Il y en a quelques-unes.
Oh, je rigole, ça va.
Non, c'est pas les épisodes, tu nous énerves. Allez, casse-toi. Tiens, bois ton verre.
Casse-toi pour ce cours, tiens, puisqu'on parlait de.
Eh bah, tiens, c'est toi qui vas commencer, Marius, avec ton coup de cœur.
Hop.
C'est les coups de cœur, là. Et comme c'est un coup de cœur que t'as pas encore écouté, j'ai hâte de l'entendre.
Et bah, vas-y, parce qu'on va rien.
Ça, c'est formidable.
Marius,
c'est parti.
C'est parti.
Après Timber Timbre en 2010, Creep On, Creeping On en 2011, Odd Dreams en 2014, Sincerely Future Pollution en 2017, n'est tout autre que le dernier album de Timber Timbre, un groupe que j'affectionne particulièrement et que je viens de découvrir à l'instant, car je n'avais pas spécialement de coup de cœur. Donc, j'ai su que vous avez sorti cet album. Je ne l'ai pas encore écouté, mais je sais qu'il est d'ores et déjà extrêmement très bon. Dans la même veine, dans la même veine des trois autres, en fait. Parce que, à mon avis, je suis sûr que c'est comme ça. Parce que rien qu'à écouter ce titre, donc qui est le troisième de l'album, qui s'appelle Skin Tone, comment on dit
Skin Tone.
On retrouve des influences en fait années 70, très lentes, toujours dans du Timber Timbre comme moi j'aime et que je vous conseille d'écouter.
Encore une musique de film de Richard Allen.
Merci. Alors, sans préparation.
Eh ben c'est pas mal.
Ouais. Ah bon. Mais c'est comme ça que t'es le meilleur.
Mais oui,
c'est bourré. Ouais.
C'est quand tu te prépares pas. C'est quand il va.
Oui. Je sais pas, t'en penses quoi, Anne?
Chacha a dit quelque chose, allez.
Elle rit.
Ludo.
Ah, c'est à moi.
À ton tour. C'est parti.
Donc moi je vais vous parler de Grave en fait, film de Julia Ducournau qui est sorti en 2017 là, qui est sorti au mois de mars et qui est un film qui est sorti précédé d'une réputation assez sulfureuse en fait, annoncé comme un film extrêmement choquant. Il a fait un peu le tour des festivals, c'est là qu'il a gagné sa réputation. Et je veux dire qu'au-delà de sa réputation sulfureuse, que je trouve un peu hypé, quoi, en fait, le film est un vrai film super prenant, très très fort, en moitié entre le teen movie et le film gore, si on peut dire, parce qu'en fait, encore une fois, les excès gore, on a vu bien pire ailleurs, mais avec portés par des acteurs, une actrice notamment, Garance Marillier, qui est fantastique, du haut, je crois, elle doit avoir 18-19 ans maintenant. Une super musique, des acteurs, il y a Laurent Lucas également qui joue dedans, et donc il raconte l'histoire d'une oh, ça va être trop court, j'aurai pas le temps, mais allez le voir parce que c'est franchement fantastique, très très fort, vraiment j'ai adoré.
Merci. Attends,
Didouille, tu es prête?
Oui.
Didouille, c'est donc à ton tour de prendre la suite. C'est parti.
Alors moi je voudrais vous parler du groupe Royal Blood. Chanteur, bassiste Mike Kerr, batteur Ben Thatcher, donc nous sommes dans l'attente du deuxième album qui devrait s'intituler How Did We Get So Dark. Et juste pour nous faire patienter, ils nous ont donc offert ce petit single qui s'appelle Lights Out, que je trouve absolument sensationnel. Et on peut retrouver Royal Blood aux Oroquen de Belfort le dimanche 9 juillet 2017. Et franchement, ça fout une patate d'enfer, ils sont deux sur scène. C'est excellent, Royal Blood. Et ce Lights Out est juste à mourir.
Le clip est pas mal.
Et le clip est super.
Tu nous avais déjà présenté.
C'est moi qui ai parlé de
c'est Nico, mais Nico là, oui, mais là, c'est le deuxième album qui va sortir. Et c'est excellent. Et
vous voyez que je retiens des fois les émissions de l'Entrepode.
Là, c'est Lights Out, c'est ça ?
Lights Out. Et je vous invite à regarder le clip qui est superbe.
Merci Didouille.
J'ai tout placé.
J'hallucine parfait. Comment je retiens des épisodes précédents et tout ça aujourd'hui.
Alors tu n'écoutes rien.
Alors, un truc. Il est trop fier de
bah,
lui.
Moi je suis content de moi.
Ah, Christophe.
Sois délicat, merde.
Moldave.
Tu peux dire ta gueule. Hein.
Dis-lui ta gueule, Christophe. Dis-lui ta gueule.
Muet et souris muet. Mais fais, toi.
Avec un mec qui se suicide au bout de 10 minutes.
Et tout le reste du film, il se passe au Rio.
Non, c'est l'histoire d'un type qui assassine un autre. Parce que...
Un gros con aux cheveux longs.
Un gros con. Hein.
Tu es prêt ?
Et Lopez du 27.
C'est parti. Alors, c'est encore de la musique. Un gros coup de cœur pour Octave Noir et son album Néon. Chanson musique française. Une musique électropop ample et puissante avec des orchestrations soignées qui projettent des images cinématographiques et engendrent des atmosphères avec un naturel déconcertant. Sa voix est toujours un petit peu en retrait, mais il le dit lui-même, il est dans l'émotion, le ressenti, le sensoriel. Il y a donc Louis, Octave, et la vue noire. Ce type est comme un gaz rare, le néon, comme le titre de son album. Il fait déjà beaucoup parler de lui parce qu'il est programmé dans quasiment de nombreux festivals. Je vous laisse écouter.
Jardin d'Éden et Amazon, les rêves partent de Lisbonne. Belém, Belém, je m'abandonne. Les rêves parlent de chimères, partir là où finit la terre. Belém, Belém, rêve-les.
Eh ben, mais à coule pas, très sincèrement, tu me donnes tout de suite le titre parce que. Enfin,
il
le...
t'écoutera la playlist.
Hein. Ouais.
T'écouteras la playlist.
Et d'ailleurs, finalement, Marius va en faire son coup de cœur.
Oui, d'ailleurs, vous l'aurez un coup de cœur le mois prochain.
Ouais, mais c'est pour le prochain épisode.
J'ai trouvé un truc super bien qui vient de sortir, c'est Néon. Alors,
à mon tour de vous présenter quelque chose.
Nova.
Plus près de toi.
Quelle physique. Il doit faire de la radio. C'est servi.
Et donc moi je voulais vous parler de Plus près de toi, qui est une émission tous les matins de 7h à 9h sur Nova, qui est présentée par Edouard Baird en direct pour nous mettre de bonne humeur. Il nous gratifie quotidiennement d'une intro, impro sur fond musical, souvent en lien avec le contexte et l'actualité du moment, dans un style dont lui seul a le secret, mêlant de la poésie, de l'absurde, de la culture. Ensuite, comme dans toute bonne émission qui se respecte, on retrouve tout un tas de chroniques, des intervenants connus ou non, dont François Rollin, récurrent ou pas, mais aussi des exercices de gym, le réveil d'un monument, une célébrité par téléphone, des musiques en live, Kit Francescoli, hier matin par exemple, et plein d'autres choses encore. C'est bien sûr disponible en podcast, et le truc qui est vachement bien, c'est que 2 heures par jour, c'est pas toujours évident à écouter, mais heureusement, il y a les 20 minutes les plus près de toi, c'est-à-dire une sorte de version concentrée best-of. Et si comme moi, vous aimez Edouard Baird ou que ce coup de cœur vous donne envie de le découvrir, je vous invite à vous procurer la folle et véritable histoire de Luigi Prizzotti, un spectacle de musical d'Edouard Baird et sa troupe. Es-tu prête, Starlet ?
Oui.
Prends, 1, 2, 3, parti.
Alors, pour rester dans le thème de ma chronique de tout à l'heure, en fait, je vous ai dit que j'étais partie pour consommer plus, pour faire moins de déchets. Et j'ai trouvé. Bah, vous m'avez trouvé, hein ? Et j'ai trouvé une boutique, en fait, qui est devenue ma super meilleure alliée, qui s'appelle Day by Day, rue Armand Carrel à Rouen, au 48 rue Armand Carrel plus précisément. Donc, Day by Day, c'est une franchise qui te permet d'acheter tous tes produits en vrac. Donc, ça te produit. T'as du vin, t'as des huiles, des céréales, des petits biscuits, des fruits secs, aussi des produits d'entretien, du savon, etc. Et tu viens avec tes petits contenants, tu les remplis, et puis tu n'achètes que ce dont tu as besoin. Et si tu n'as pas tes contenants, ils t'en fournissent. Donc étiquette verte pour les produits bio, étiquette orange pour les produits issus de l'agriculture raisonnée. On a été chaleureusement accueillis par Jennifer. Allez la voir, vraiment, c'est un super concept.
Très sympa. Okay. Il y aura quelques photos sur le site.
Oui.
Aussi. Très bien. Starlet, Arnaud, es-tu prêt ?
Oui.
À ton tour.
Donc je voulais vous parler de Gérard, sous-titré 5 années dans les pattes de Depardieu, qui est une BD de Mathieu Sapin, qui est un dessinateur qui au départ a été recruté en 2012 pour croquer Gérard Depardieu lors d'un documentaire sur les pattes d'Alexandre Dumas dans le Caucase. Et puis de fil en aiguille, et parce que la confiance s'est installée entre eux, finalement il a suivi Gérard Depardieu pendant 5 ans en Russie, en Bavière, au Portugal, de tournages de films ou d'émissions, en voyage d'affaires. Une succession de scénettes qui vraiment permettent de découvrir des aspects à la fois intimes du personnage, de son enfance, parce qu'il se confie beaucoup au dessinateur, et puis sa démesure, sa complexité, sa profondeur. Et je pense que restera notamment en mémoire, pour ma part, mais je pense de tout lecteur, une scène dans une datcha en Russie, dans un sauna, que je ne dévoile pas, parce que c'est à découvrir. Mais c'est une super BD, faut aimer Gérard Depardieu, mais je pense que même quand on a des réserves vis-à-vis du personnage, c'est une bonne occasion de bien le découvrir.
Merci. Ouais, on arrive à la fin de cet enregistrement, le 33e.
C'est comme Escape Game, on n'a pas vu le temps passer.
On espère que justement cette écoute vous a plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, on espère que ça s'est bien passé.
Non, celui-là était bien, celui-là.
Donc un numéro qui était sans invité. Espérons qu'il soit suffisamment structuré et agréable à écouter, parce que vous avez reproché.
Je l'ai trouvé très fluide, moi.
Mais non, on passe toujours un super moment à les enregistrer, mais après, c'est vrai qu'à l'écoute, c'était différent, moins de structure que quand il y a un invité. Et justement, ça vous a plu, déplu, intéressé, etc. Ou juste si vous voulez échanger avec nous, laissez-nous des commentaires ou tous les commentaires que vous voulez d'ailleurs sur le site entrepod.fr. Vous trouverez comme d'habitude les liens vers ce qu'on présente dans l'épisode, parfois même d'autres articles. N'hésitez pas à les farfouiller. Vous trouverez forcément quelque chose qui vous intéressera et inscrivez-vous à la newsletter si vous avez peur de rater quelque chose. Vous pouvez également interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour les principaux, mais aussi Google+. Eh oui, on est encore sur Google+.
Ou LinkedIn
ou Instagram. 5 étoiles sur iTunes, ça permet de nous faire connaître. Et puis c'est toujours sympa de lire des commentaires et des appréciations de gens qu'on ne connaît pas. Donc c'est toujours agréable.
Ouais, parce que Mathieu, tout ça, c'est chiant.
Pour les considérations financières, il y a toujours le Tipeee qui est en ligne. Donc si vous jugez que nos émissions le méritent, vous pouvez toujours nous envoyer quelques sous. On a fait notre AG justement en début de semaine. Et pour ceux que ça intéresse, quelques-uns parmi vous, d'après le sondage qu'on a pu faire en début d'année, on va ouvrir les adhésions à l'association L'Entrepode. Et on va mettre une rubrique consacrée à cette association sur le site. Vous retrouverez toutes les informations si vous voulez adhérer, si vous voulez voir les PV d'Assemblée Générale, etc. Vous verrez qu'on ne fait pas complètement n'importe quoi. On fait ça que quand on a des micros, en fait. Et par exemple, l'utilisation de l'argent, ce n'est pas pour uniquement
de l'alcool.
Loin de là.
C'est même pas du tout pour
ça. Non, on le fait sur nos deniers
perso. Au contraire, c'est vraiment acheter du nouveau câble et connectique, parce qu'on a eu quelques craintes en début d'enregistrement avec Marius, parce que ça craquait de partout.
Voilà, on a aussi acheté un enregistreur numérique. Avec les sous, on fait des vrais trucs. Des
nouvelles. Pour faire le printemps de Montlis, l'enregistreur, c'est bien ça.
Des nouvelles bonnettes, des pieds de micro, tout ça commence à fatiguer après 4 ans.
Peut-être bientôt un pad. Peut-être un pad. Ensemble.
D'effrayer d'éventuels invités, on en a évoqué aussi, puisque on a quelques idées d'invités qui viendraient de loin, donc ça c'est des petites choses qu'on a en tête, voilà. Donc pour vous dire qu'on part pas complètement à l'inconnu, l'argent serait utilisé de façon
à bon escient.
Et puis sinon, c'était autrement, mais si vous voulez partager, il n'y a pas de problème. On se retrouve normalement le mois prochain, pour l'instant on n'a pas encore programmé de suite. D'ici là, où est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part? Est-ce que vous avez des choses, des endroits où on peut vous retrouver prochainement? Tiens, Ludo, par exemple.
Moi, on peut me retrouver à www, je me lave une seule fois par an et je collectionne les animaux-morts.com.
Ok. Et sinon, un vrai truc. Non, est-ce qu'il y a un événement, quelque chose que tu voudrais mettre en avant prochainement?
À Clisson, au mois de juin, on a un peu de temps d'ici là.
Tout à fait. Voilà. Puisque cette année, nous irons tous les deux. Exactement. Ça permettra d'avoir une autre approche.
D'ailleurs, je me faisais une petite réflexion. L'année dernière, quand tu étais au Hellfest, il dormait avec moi sous une tente.
C'est vrai.
Cette année, vous allez dormir au moment du Hellfest, tous les deux dans une chambre d'hôtel.
C'est pas grave.
Aime le Fribourg quand même.
Ah, ça, je veux dire que j'aime bien
Starlet,
le Fribourg.
Monsieur Rowe, il
m'a dit j'adore tellement. Il dit, de toute façon, l'avantage avec le Fribourg, c'est qu'on bourre frais.
Ok, tiens Arnaud, toi, où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement?
Alors moi, on va me retrouver, j'en avais déjà parlé, mais on a changé de lieu finalement. On me retrouvera le 28 mai à 16h à Hénouville, à la salle polyvalente d'Hénouville, pour une représentation de La Poison, pièce de Sacha Guitry, avec la troupe de théâtre d'ensemble Saint-Martin de Beaucherville. Et puis, je ferai sûrement un petit tour le 30 avril au marché artisanal de La Bouille, où une céramiste dans la boîte noire exposera pour la première fois ses productions.
Ses créations, très bien.
Bah écoute, on relaiera aussi, hein. Pas de soucis. Starlette ?
Non.
Non ? Non. Tiens, Marius,
je suis complètement dans le désordre. Alors moi, dans mon église, hein, ça, je suis faire des petits garçons en couche-culotte. La célébration des célébrations. C'est ce que j'ai le truc
célébration dans les yeux.
C'est la fusion.
Voilà, nickel.
Ok, non, t'as pas de.
Non, j'ai rien de spécial là.
Bon,
non.
D'accord, t'as pas une DBD à vendre ou des trucs comme ça?
J'ai une Renault 5 avant. parfait état. Et un trafic également. Un trafic noir refait, sorti de la.
Contrôle technique, ok.
Contrôle technique, ok. Plus de défaut au compteur.
Plus de défaut au compteur. Didouille.
Mois de mai, sur la base de Léry, pose pour une manifestation. On rassemble le plus grand nombre d'enfants pour des cerfs-volants.
Ah, mais je serai présent.
Et,
nous serons tous présents.
Au mois de juillet, au concert de Depeche Mode au Stade de France.
D'accord, bon, on aura l'occasion d'en reparler.
Oui, oh bah oui. Hein.
Non, bah, à l'occasion de l'entendre en tout cas.
C'est pas faux.
Christophe, à ton tour.
Moi, nulle part.
C'est vrai? D'accord. Bah,
non, quelle activité?
On n'attendait pas moi. En mai, moi, bon, peut-être qu'on pourra s'y croiser, peut-être certains d'entre vous seraient là, pardon. Le Courtivore, puisque les 10, 17 et 24 mai se tiendront les trois actes du Courtivore. Alors, j'ai plus la date de finale qui doit se trouver certainement début juin. J'ai plus la date précise, donc comme l'année dernière, à l'Ariel. Et donc, trois soirées consacrées à des courts-métrages avec des votes. Et c'est vrai que c'est toujours l'occasion de découvrir des choses assez originales, assez sympathiques, avec des séances dérivées, le Courtivore en short pour les enfants, le Courtivore sur les toits, je crois que j'ai vu.
Je serai également présent au Courtivore en short.
Donc, il y a plein de choses.
C'est le 25 avril
mai.
Le 25 mai, je crois.
Donc, je ne sais pas quand on enregistrera la prochaine fois. Donc, voilà, on peut commencer à évoquer des sujets du mois de mai.
C'est le 2 juin à l'Omnia.
D'accord. Donc, on continuera de relayer, mais n'hésitez pas à aller vous-même sur le site, vous inscrire pour les événements.
On va voir cette petite tête blanche.
Et puis, moi, je serai aussi prochainement au Pôle emploi et puis dans divers lieux pour une reconversion professionnelle. Peut-être on s'y croisera. En tout cas, pour moi, c'est plutôt cool. Je suis très content. Donc voilà. Bah, écoutez.
Le Courtivore en short a lieu le 31 mai.
Très bien. C'est le moment de se quitter. Et puis, on vous dit, continuez d'écouter des podcasts et restez curieux. Échangez. Et puis, le petit mot de la fin, c'est quoi? C'est... Allez!
Bonjour!
Bisous!
Je tiens quand même à signaler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Oui, tout à fait.
Tu m'étonnes.
Et t'en es la preuve vivante.